lettres et écrits des premiers Quakers suite, le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour obtenir un renvoi dans les écritures ou un détail dans les écrits. NXXXV Margaret Fell à ses enfants Londres, 25e jour du 8e mois, 10e mot. 1660 Mes agneaux et bébés très chers et bien-aimés, mon amour est pour vous tous, et ma prière au Seigneur qui m'a uni à vous est pour vous tous, que, dans son bras et sa puissance, vous soyez gardés au sein de son amour, pour y être nourris et chéris jusqu'à la vie éternelle. C'est maintenant libre, béni soit le Seigneur Dieu, dont le bras et la puissance seuls l'ont fait, après qu'il a comparu devant le juge qu'il avait fait amener. Puis il a comparu devant le Lord Chief Justice d'Angleterre dans sa chambre, et le lendemain il a comparu devant tous en audience publique au King's Bench, et tout cela après que le roi eut accordé un ordre pour le mettre en liberté, mais il ne voulait pas le libérer avant qu'il eût comparu en tous ses lieux, pour voir si quelque chose pourrait être retenu. Cela a rendu un grand service à la vérité. Je ne puis écrire présentement avec précision le moment de mon retour, car je sens que je ne suis pas encore dégagé de ce lieu, mais j'attends néanmoins la volonté et le bon plaisir du Seigneur, et que son temps me soit manifesté. Puissiez-vous vous en contenter, car il y a une paix éternelle, et là vous jouirez de moi. Je ne sais pas avec quelle soudaineté le Seigneur peut me donner ma liberté de rentrer à la maison, mais quand cela arrivera, je l'embrasserai avec amour. Donnez-moi des nouvelles des petits, comment ils vont tous, vous en dites peu quand vous écrivez, et mon désir est d'avoir des nouvelles de vous tous et de votre bien-être dans le Seigneur. Il se peut que vous ayez déjà entendu, avant ceci, que James Nelly a achevé sa vie naturelle et a déposé son corps de terre à environ 60 000 de Londres astérisque ainsi, rien de plus, sinon que mon amour dans le Seigneur Jésus est avec vous, et dès que le Seigneur me le permettra, je reviendrai. Que le bras éternel du Tout-Puissant soit avec vous. Astérisque James Nelly mourut dans le Hinting d'Onzire. Ce qui suit est une copie du registre d'inhumation des amis dans le Hinting d'Onzire. James Nelly, inhumé le 21e jour du 8e mois, 1660, à Ripton Regis, dans le Hinting d'Onzire. Margaret Fell, d'après l'original, le mandat du juge ordonnant la libération de George Fox est daté du jour même de cette lettre, et il est adressé au maréchal du King's Bench. Il fut ainsi remis en liberté, après avoir été prisonnier plus de 20 semaines au château de Lancaster. Il déclare dans son journal que la terreur s'empara du juge de paix du Lancashire, porté, par qui il avait été écroué. Bien qu'innocent de toute accusation légitime, il avait peur que je ne fasse jouer la loi contre lui pour mon emprisonnement injuste, et en vérité certains en autorité me pressaient de faire de lui et des autres des exemples, mais je dis que je les laisserais au Seigneur, si le Seigneur leur pardonnait, je ne me tourmenterais pas à leur sujet. Journal, 1660. Au moment de cet écrit, Margaret Fell était veuve et avait un fils, ainsi que sept filles, dont les noms étaient Margaret, Maria John Rose Bridget, Maria John Drapé, Isabelle Sarah, qui épousa William Mead Mary, Maria Thomas Lowe Susanna, devenue ensuite Ingram par mariage, et Rachel, Maria Daniel Abraham. NXXXV, vers la fin de cette année, 1660, les amis de Londres s'employèrent avec beaucoup d'assiduité à intercéder auprès du roi en faveur de leurs frères souffrants, dont un si grand nombre endurait de pénibles détentions dans les prisons du pays. George Whitehead nous informe, leur innocence fut plaidée devant lui, comme étant un peuple pacifique et n'ayant pas perdu le bénéfice de sa promesse de liberté aux consciences délicates en matière de religion. Certains amis à Londres le lui rappelèrent, et, par des sollicitations et des plaintes fréquentes au sujet de leur persécution et de leur dureté, il le roi fut amené à publier sa proclamation de grâce pour la libération des prisons. Toutefois, ladite proclamation contenait aussi une menace, à savoir que l'impunité n'était pas entendue si les Quakers continuaient à pratiquer comme nous l'avions fait, CAD, pour des raisons de religion, à Christian Progress p. 260. Ce qui suit est une copie de la minute du conseil relative aux plaintes des amis, vendredi 23 nov, t 1660 9e mot. Whitehall conseil il est ordonné ce jour, le roi étant présent que le Lord Steward, avec six autres membres du conseil ou trois quelconques d'entre eux, soit un comité chargé d'examiner les papiers et adresses des Quakers, et de préparer à leur sujet une proclamation ou déclaration telle qu'ils jugeront appropriée à soumettre au roi les concernant, ainsi que d'examiner où certains des dix sont emprisonnés, pour quelle cause ils ont été incarcérés, depuis combien de temps ils sont détenus, et ce qu'il conviendra de faire pour le. L'affaire étant poursuivie, une proclamation royale fut préparée et publiée, dont voici un extrait. 25 janvier 1661, 11e mot, 1660. Attendu que beaucoup de personnes, communément connues sous le nom et l'appellation de Quakers, ont récemment été arrêtées et emprisonnées comme personnes opposées au gouvernement du roi, le roi eut la bonté d'ordonner en conseil que le Lord Mayor de la cité de Londres libère tous, ou autant d'entre eux actuellement prisonniers dans sa juridiction, qui ne sont pas des meneurs ni des prédicateurs parmi eux, ou contre lesquels il n'existe pas d'accusation particulière, les dix Quakers s'engageant à l'avenir à vivre dans l'obéissance à la loi. Chronique de Quesnay, p. 318 et 364. Il convient de préciser qu'à cette époque, des efforts semblent avoir été faits pour réconcilier, de manière générale, les différences ecclésiastiques dans l'État, car une déclaration royale fut publiée par le Conseil, datée du 25 octobre 1660, concernant les affaires ecclésiastiques, dans laquelle le roi exprime son désir d'apaiser ses différends et de supprimer les abus. Dans ce document, il renouvelle de nouveau ce qu'il avait auparavant proclamé dans sa déclaration de Breda, en faveur de la liberté des consciences délicates, qu'aucun homme ne soit inquiété ni mis en cause pour des différences d'opinion en matière de religion, qui ne troublent pas la paix du royaume, et déclaration royale concernant les affaires ecclésiastiques. Tract de l'ordre sommet, vol XIP. 16. À tel point les choses semblaient alors tourner en faveur d'une liberté générale de conscience, que la déclaration royale ci-dessus fut même incorporée dans un projet de loi, présenté à la Chambre des communes le 28 novembre de cette année 1660, mais il fut rejeté à la seconde lecture, s'étant heurté à l'opposition de l'un des secrétaires d'État du roi. Telle était l'incertitude ou l'oscillation, pour ne pas dire pire, manifestée sur cet objectif important. Mais des complots surgirent peu après, et surtout celui des hommes de la Ve Monarchie, qui mit fin à toute procédure ou profession ultérieure en faveur d'une liberté générale de conscience, et il est très probable que ces complots servirent de prétexte à l'adoption, au cours de l'année suivante, de mesures sévères contre les non-conformistes, et principalement contre les Quakers. Dans l'histoire de Soul, on trouvera des détails intéressants sur ce qui se passa lors d'un entretien que Richard Robuthon eut alors avec le roi. George Fox mentionne aussi dans son journal que Thomas Moore et Margaret Fell furent souvent engagés à intercéder auprès du roi à ce même sujet. Parmi la collection de manuscrits de Swarthmore, on a trouvé le récit suivant d'un entretien de Thomas Moore, ancien juge de paix avec le roi, que l'on croit n'avoir jamais été imprimé auparavant. Il est annoté par G. Fox comme suit, ce que le roi a dit à Thomas Moore. 1660, 14 jours du 10e mois. Quelque chose qui s'est passé entre le roi et moi, Thomas Moore de Rotswood, dans le comté de Surrey. 14 jours du 10e mois, 12e mot. 1660 après que moi, avec d'autres amis, eûmes présenté nos souffrances au roi et à plusieurs membres particuliers de son conseil, et après plusieurs jours à les attendre pour obtenir une réponse, le roi eut la bonté, avec une grande partie de son conseil, de nous accorder un ordre, et il choisit un comité pour examiner nos papiers et nos souffrances. Après quelques semaines pendant lesquelles nous avions attendu et sollicité les membres choisis pour entendre notre affaire, nous reçûmes beaucoup de promesses disant que nous serions entendus et aussi secourus. Ainsi, au jour susdit du 10e mois, nous étant selon notre habitude en attente dans le vestibule à la porte de la chambre du conseil, le roi et tout son conseil s'y trouvant assis, comme nous l'avons appris depuis par certains de ce qui était du conseil, il y eut parmi un débat pour savoir si je devais être introduit avec mon chapeau, car il disait que je ne l'enlèverais pas moi-même. D'autres disaient qu'il pourrait être ôté doucement par le portier ou le greffier, mais le roi dit que nullement, on ne devait pas l'ôter à moi. Là-dessus, après quelque temps, on m'appela, et lorsque j'eus avancé assez loin dans la salle, et que je vis le roi au bout de la table avec le reste du conseil, je m'arrêtai, ne sachant pas si je pourrais offenser, quand l'un du conseil me parla et me dit « Vous pouvez avancer, c'est le bon plaisir du roi que vous veniez à lui avec votre chapeau. » Je m'avançai donc près du roi et dis « Est-ce le roi ?» et ils dirent « Oui ». Je le regardai et il me regarda et je lui adressai la parole du Seigneur comme elle s'élevait en moi, concernant la bonté et la miséricorde du Seigneur envers lui, pendant l'espace d'un quart d'heure, et je ne fus pas interrompu, mais ils restèrent tous silencieux jusqu'à ce que je fusse quitte. Quand j'eus fini de parler, le roi me demanda ce que je voulais de lui. Je dis « Au roi nos réunions, qui se tiennent dans la crainte de Dieu sont par la volonté de mauvais gouvernants et de gens grossiers maintes fois dispersés. Nous sommes traînés, battus, meurtris et foulés aux pieds par les exigeants, lesquels sont encouragés par de tels magistrats qui, de leur propre chef, nous font souvent traîner dehors, envoyer en prison et y retenir contrairement à la loi et à votre déclaration envoyée de Breda, et depuis renouvelée, dans laquelle vous avez promis que nous ne serions pas inquiétés ni mis en cause pour des... » Alors le roi me répondit, « Dieu nous en garde, vous, vivant dans la crainte de Dieu, d'être lésés, et que vos réunions soient troublées, car je veux que vous jouissiez de vos réunions paisiblement, et que vous soyez protégés, vivant paisiblement et tranquillement dans le royaume. » Alors je dis, « Certains d'entre nous sont inculpés pour ne pas venir à la maison au clocher. » Le roi répondit, « Vous ne serez pas inculpés pour ne pas venir à l'église. » Alors je dis, « Ce que vous dites ici à l'intérieur de ces murs peut ne pas nous secourir. » Car les magistrats du royaume peuvent ne pas savoir quelle est votre intention ici, et ainsi il est possible que nous ne jouissions pas de ce qui est dans votre cœur envers nous, à moins que votre bon plaisir ne soit signifié au royaume par proclamation ou déclaration. » À quoi le roi répondit, « Vous jouirez de vos réunions sans trouble, vous le verrez, tant que vous vivrez paisiblement, laissez-moi faire. D'après ce que le roi y a dit, nous espérons que quelque chose pourra être fait pour nous, car il nous a dit d'attendre encore un peu, et nous verrions. » Thomas Moore George Fox, dans son journal à la date de cette époque, dit « Il semblait en ce temps-là qu'il y avait, dans le gouvernement, une inclination et une intention d'accorder aux amis la liberté, parce qu'ils sentaient que nous avions souffert, tout comme eux, sous les pouvoirs précédents. Mais pourtant, chaque fois que quelque chose allait de l'avant dans ce sens, un esprit sordide ou un autre, qui semblait être pour nous, jetait quelque chose sur le chemin pour l'arrêter. On disait qu'un instrument avait été rédigé pour confirmer notre liberté, et qu'il ne manquait plus que la signature, quand tout à coup cette méchante tentative du peuple de la cinquième monarchie éclata et mit la ville et la nation en tumulte. Après cet événement, George Fox et ses amis rédigèrent une déclaration du peuple de Dieu inoffensif et innocent, appelée Quakers, contre toute sédition, comploteur et combattant dans le monde, qui fut présentée au roi le 21 du 11e mois, 1660, appelée janvier 1661. On peut consulter plus avant son journal pour cette période riche en événements. Fait curieux, la déclaration de Fox contre la sédition, les comploteurs et les combattants, dans laquelle Fox nie que les Quakers étaient des combattants, fut ensuite déformée par les Quakers d'une époque ultérieure pour devenir la base d'une confrontation du gouvernement au sujet de la guerre, leur témoignage de paix et la justification de leur protestation de masse, exactement l'inverse de l'intention de la lettre. Pour voir la lettre, cliquez ici. NixXXV sur les procédures au Parlement concernant le projet de loi contre les amis en 1661 malgré les sollicitations pressantes des amis auprès du roi. Au début de cette année, peu après le complot de la cinquième monarchie, une proclamation royale fut publiée contre toute réunion illégale sous prétexte de culte religieux, dans laquelle les Quakers étaient expressément nommés, exposant qu'ils se réunissent en grand nombre, à des heures inhabituelles, raison pour laquelle ils commencent à se vendre. Kenney P. 357. Le 11 jour du mois appelé mai de cette année, à l'occasion du couronnement du roi, une autre proclamation royale fut toutefois publiée, pour décharger de tels amis qui avaient été emprisonnés en vertu d'une loi de Jacques Yé, ainsi que pour avoir refusé le serment, ou pour s'être réunis contrairement à la proclamation récente sans paiement de frais. Mais seulement 5 jours après la date de cette proclamation, preuve qu'il existait dans l'État un parti puissant favorable à la persécution, un comité fut nommé à la Chambre des communes, pour préparer et présenter un projet de loi visant à prévenir les mauvaises conséquences pour le gouvernement, dues aux Quakers et à d'autres refusant de prêter serment et se rassemblant en grand nombre et illégalement, avec des peines adaptées à la nature de ces délits et utiles pour agir sur les humeurs de tels fanatiques. Kenney P. 448, citant les journaux de la Chambre des communes. Ainsi commença une série de persécutions, comprenant 3 lois parlementaires nommant les Quakers haïs, afin de les détruire délibérément. Le père du roi avait été décapité par un parlement révolutionnaire puritain d'Icide. Les alliés du roi étaient les royalistes des classes supérieures, principalement issus de l'Église d'Angleterre établie. Or venait de se produire une révolution avortée de fanatiques religieux d'Icide, qui inspira au roi la crainte de tous les groupes religieux d'Icide. Il se tourna vers le seul soutien dont il disposait, l'Église d'Angleterre, dont les membres le soutiendraient financièrement et combattraient de nouveau pour lui, comme il l'avait fait pour le rétablir, redoutant la possibilité d'une autre guerre. Les Quakers n'étaient d'aucun secours, ils ne combattraient pas si nécessaire. Les Quakers n'étaient même pas capables d'aider à faire élire une Chambre des communes favorable au Parlement, parce que pour être électeur, il fallait prêter serment. Les Quakers furent donc sacrifiés au profit d'intérêts temporels, sans crainte des conséquences, du moins de la part des pouvoirs terrestres. L'Église d'Angleterre perdait en masse des membres cotisant au profit des Quakers. Certaines églises étaient vides d'auditeurs et de contributeurs, et elle était donc impatiente de détruire les Quakers. De plus, cette Église épiscopale nationale avait l'habitude de persécuter les dissides, s'étant vengée des puritains lors de la restauration du roi en remplaçant le puritain Cromwell. Le roi, pour assurer son propre trône, s'allia au désir radical de l'Église d'Angleterre de détruire les Quakers par l'emprisonnement, la ruine financière et, à terme, le bannissement hors du pays vers les colonies tropicales, visant particulièrement les ministres et les dirigeants qui persuadaient leurs membres cotisants d'abandonner leur Église. George Whitehead écrit ce qui suit au sujet de ce projet de loi cruel, que l'on peut considérer comme la première tentative d'écraser la société par toute la force d'un acte législatif. Ce ne fut que peu de temps après que nous eûmes été remis en liberté que nous pûmes jouir tranquillement de nos réunions religieuses. L'esprit religieux de persécution était à l'œuvre dans la nation, parmi prêtres et magistrats, qui voulaient contraindre tous à aller à l'église et à se conformer, tel était le prétexte, afin que tous soient d'une seule religion, alors qu'il y avait peu de vie, de substance ou de pureté de la religion visée en l'affaire. Si prompt et précipité était l'esprit persécuteur, si avide d'agir, et cela encore sous quelque excuse ou prétexte de loi, que dans le premier parlement élu après la restauration du roi, ils imaginèrent bientôt un projet de loi pour supprimer nos réunions. Et plusieurs des personnes élues pour être membres de ce Parlement étant connues comme persécutrices, ce parti l'emporta et le fit passer au vote, de sorte que le projet fut renvoyé en commission et finalement adopté en tant que loi intitulée « Loi pour prévenir ». D'avoir exposé que certaines personnes nommées Quakers et d'autres ont adopté et soutenu diverses opinions et doctrines dangereuses, et entre autres que la prestation d'un serment en quelque cas que ce soit, même devant un magistrat légitime, est totalement illégale et contraire à la parole de Dieu, la loi poursuit en déclarant que les dites personnes, sous prétexte de culte religieux, s'assemblent souvent en grand nombre dans diverses parties de ce royaume, au grand péril de la paix et de la sûreté publique, et à la terreur. Edward Burruff, Richard Robeson et George Whitehead comparurent devant un comité parlementaire pour parler contre le projet de loi, ils échouèrent. Ci-dessous figure la lettre d'Edward Burruff décrivant les actions du Parlement, bref compte rendu des procédures du Parlement concernant le peuple de Dieu appelé Quakers. Selon la politique des hommes de ce monde, qui agit en cette génération contre la semence juste de Dieu pour la soumettre, comme elle l'a fait dans les âges passés contre cette même semence, et ainsi cela arriva. Le 26 jour du troisième mois dernier, appelé mai, ce qui n'était pas beaucoup de jours après la réunion du Parlement, un certain membre de la Chambre des communes, dont je ne mentionnerai pas le nom pour l'instant, proposa que puisque les Quakers, comme il les appelait, étaient un peuple nombreux et s'accroissaient chaque jour, et qu'en raison de l'indulgence du roi et de ses belles promesses envers eux, notamment cette proclamation pour leur libération de toutes les prisons, laquelle avait été publiée environ 3 jours avant ce moment. Là-dessus, la question fut mise aux voix dans la Chambre, et il fut résolu en ce sens que cela serait renvoyé à certaines personnes, que je ne nommerai pas à présent en tant que comité, pour préparer et présenter un projet de loi, afin de prévenir les mauvaises conséquences pour le gouvernement, dues aux Quakers, aux anabaptistes et à d'autres schismes, refusant de prêter serment, et se rassemblant nombreux et illégalement, avec des peines adaptées à la nature de ces délits et profitables pour agir sur les humeurs de tels fanatiques. Tels sont les termes même de l'ordre. En conséquence, au bout d'environ 6 semaines, un projet de loi fut préparé, présenté à la Chambre et lu une première et une seconde fois, et comme telle est la manière de la Chambre, dans de tels cas de finalisation des projets de loi, il fut renvoyé à un certain nombre de personnes, dont les noms ne peuvent être nommés maintenant en tant que comité chargé de corriger et de finaliser le dit projet de loi, et d'en faire rapport à la Chambre, en vue de son adoption en tant qu'acte. Et en conséquence, le dit comité se réunit vers le 20e jour du 5e mois, si je ne me trompe, pour lire et débattre le dit projet de loi. Et nous n'étant pas en paix dans nos cœurs devant Dieu et envers son peuple, pour permettre que cette méchanceté se poursuive sans rendre témoignage contre elle, au fur et à mesure qu'elle avançait, afin d'être quitte de telles procédures contre l'innocent, et qu'ils soient mieux informés nous concernant, et aussi repris dans leurs œuvres, nous fûmes donc mis en nos cœurs dans la sagesse de Dieu à nous efforcer d'obtenir l'admission pour comparaître devant eux leur montrant l'équité de la chose, afin de mieux les informer et de leur exposer nos raisons contre le dit. Ayant pris quelques dispositions à cet effet, en raisonnant au préalable avec beaucoup de membres, selon notre désir, 3 d'entre nous furent autorisés à entrer, et nous fûmes conduits par l'un des membres du dit comité, et nous parûmes devant au nom et par l'autorité du Seigneur Dieu. Après quelques obstacles à propos de nos chapeaux, qui furent enfin ôtés par l'un d'entre eux, ils nous posèrent quelques questions qui nous étions, où nous vivions, pourquoi et pour quelles raisons nous nous présentions là, auxquelles nous répondîmes. Ils nous donnèrent ensuite la liberté de leur présenter un manuscrit, qui fut reçu et lu, et nous eûmes aussi la liberté de dire quelque chose concernant le dit projet de loi, et son caractère déraisonnable, et les conséquences funestes qui s'ensuivraient s'il passait. En bref, nous rendîmes notre témoignage par l'Esprit du Seigneur contre leur procédure, et ainsi nous fûmes congédiés de leur présence et nous retirâmes, et ils poursuivirent l'affaire, dont on ne peut encore donner un compte exact. Le lendemain, si je m'en souviens, le rapport du président du dit comité fut présenté à la Chambre là-dessus. Ceux-ci jugèrent bon que le projet de loi fût renvoyé de nouveau en commission pour quelques amendements, et en conséquence le comité se réunit de nouveau vers le 13 jour du mois susmentionné. De mémoire, devant qui nous obtînmes à nouveau l'occasion de paraître, par la bienveillance de certains membres du comité, et ce jour-là nous rendîmes pleinement témoignage contre le dit projet de loi, qu'il était injuste et... Nous eûmes beaucoup d'échanges avec eux, non pas comme si nous capitulions, mais en niant entièrement tout le fond de l'affaire. Ils se montrèrent plus modérés envers nous que lors de la première séance, et la présence du Seigneur était grandement avec nous, et certains esprits furent soumis sous la puissance de la vérité, qui fut alors déclarée avec grande autorité et sagesse, bien que certains d'entre eux eussent bien du mal à supporter ce qui était dit. La dernière chose dite par l'un de nous fut que, si jamais ce projet de loi alors en débat était finalisé en tant qu'acte à exécuter, il était si loin d'y céder en se conformant, qu'il par la force du Christ se réunirait parmi le peuple Dieu pour l'adorer, et non seulement cela mais il ferait de cela son affaire, d'exhorter partout le peuple de Dieu à se réunir pour l'adoration de Dieu, nonobstant cette loi et toutes ses peines, et il demanda que cette déclaration fût rapportée à la Chambre. Ainsi, après avoir apaisé notre conscience à leur égard et laissé un bon témoignage pour la vérité sur leurs esprits, nous les quittâmes et nous retirâmes, et ils poursuivirent leur travail ce jour-là, et amendèrent le projet de loi, ou plutôt le rendirent bien pire et plus déraisonnable que jamais, et cela contre certaines de leurs propres consciences et convictions raisonnables, comme je le crois, car ce jour-là, ils le formulèrent de la manière suivante, à savoir, que pour la troisième infraction de refus de prêter des serments lorsque, environ deux jours après, le projet de loi avec ses nouveaux amendements susdits fut présenté de nouveau à la Chambre, à quoi s'ensuivit un très grand débat parmi eux, de sorte que le projet de loi fut encore modifié et ramené à une teneur nouvelle et plus modérée, beaucoup d'entre eux jugeant qu'il était trop sévère contre nous tel qu'il avait été présenté. Ainsi, la matière fut âprement débattue à la Chambre, et le projet de loi fut rédigé et adopté comme suit, pour la première infraction de refus de prêter un serment légalement proposé, et pour s'être réuni comme susdit, étant légalement condamné par 12 hommes ou par l'aveu de la partie, une certaine somme serait imposée par ceux devant qui cette condamnation serait prononcée, n'excédant pas 5 livres, et celle-ci serait prélevée par saisie, ou la personne serait envoyée à la maison de correction ou à la prison commune. Telle fut la forme du projet de loi telle qu'elle passa finalement à la Chambre, après avoir été modifié 3 ou 4 fois auparavant. Il fut donc ordonné qu'il fût mis au net, et qu'il fût présenté à la Chambre à telle date pour décision finale, et pour être envoyé à la Chambre haute. Mais il nous vint au cœur, avec un grand zèle pour Dieu et sa vérité, et contre cette chose injuste, et le Seigneur suscita les cœurs de certains, d'entre nous par sa puissance éternelle de nouveau pour rendre témoignage contre elle, afin que nous soyons quittes en notre conscience concernant cette affaire. Ainsi, pour la cause même de Dieu et de sa vérité, nous fûmes livrés à faire et à souffrir toutes choses, et nous tentâmes hardiment de paraître aux barreaux de leur chambre, afin de donner nos raisons et de décharger nos cœurs contre le dit projet de loi, et pourquoi il ne devait pas passer en tant qu'acte. Pour obtenir cette comparution devant eux, nous employâmes plusieurs arguments auprès de nombreux membres de la chambre, afin de procurer notre admission, et selon notre désir, par la providence même et la sagesse de Dieu, lorsque le projet de loi fut lu pour la dernière fois à la chambre pour être finalisé, nous fûmes admis par le vote de la chambre, et après un petit débat à la porte entre certains membres à propos de nos chapeaux, le sergent vint nous dire que nous pouvions entrer avec nos chapeaux ou sans, comme nous voudrions. Ainsi, au barreau, nous comparûmes dans la crainte de Dieu et son autorité, et après quelques questions posées par le speak, auxquelles nous répondîmes, et après avoir reconnu la faveur d'être admis en ce lieu, nous leur présentâmes un manuscrit, que nous demandâmes qu'il fût reçu et lu, et ils le reçurent par les mains de leur sergent, et le speak nous donna aussi la liberté de dire ce que nous avions sur le cœur. En conséquence, le Seigneur ouvrit nos bouches, et nous exposâmes à la Chambre plusieurs raisons solides contre le dit projet de loi, et pourquoi il ne devait pas passer en tant qu'acte, 1 degré à cause de la fausseté et du manque de solidité de son fondement, 2 degrés à cause de son caractère déraisonnable et injuste en lui-même, et 3 degrés à cause des mauvais effets qui s'ensuivraient nécessairement s'il passait. Bien d'autres choses furent dites au nom et par l'autorité du Dieu du ciel, concernant notre caractère pacifique, et le droit absolument propre qui nous appartient, de la part de Dieu et des hommes, de jouir de la liberté de notre conscience dans l'exercice de notre religion. Et nous eûmes largement le temps de décharger notre conscience à leur égard au sujet de ce projet de loi, en montrant en quoi il était contraire à la loi du Christ, aux promesses du roi, et destructeur pour plusieurs milliers de gens de bien. Ils nous écoutèrent, avec beaucoup de modération et de patience, et la parole du Seigneur par notre intermédiaire eut de l'effet sur beaucoup, pour ramener leurs esprits à la sobriété par une bonne information. Ainsi, après nous être justifiés et leur avoir laissé la chose, la Chambre nous ordonna de nous retirer, ce que nous fîmes, et ils entrèrent dans un très grand débat sur la matière. Certains parlèrent pour nous, et beaucoup contre nous, et certains restèrent neutres, et le débat dura environ 1 heure, avant que le vote de la Chambre ne tranchât la chose. Mais à la fin, au prix de difficultés entre eux, l'affaire fut conclue, et le projet de loi envoyé à la Chambre haute pour y être lu, et adopté comme bon à signer par le roi. Extrait des journaux de la Chambre des communes, à la date du 19 au jour du 6e mois, 1661, un projet de loi pour prévenir les méfaits et les dangers qui peuvent survenir du fait de certaines personnes appelées Quakes et d'autres refusant de prêter des serments légaux, ayant été mis au net, a été lu ce jour pour la 3e fois. Une pétition ayant été présentée au nom de certaines personnes appelées Quakes par quelques-uns à la porte, qui se réclament de cette dénomination, et qui demandait à être entendu avant que le dit projet de loi ne fût adopté, il est résolu que les personnes à la porte soient appelées. Et les 4 hommes, à savoir Edward Burroughs, Richard Robeson, George Whitehead et Edward Pio, ayant été en conséquence autorisés à venir au barreau de cette chambre, exposèrent chacun ce qu'ils avaient à dire contre l'adoption du dit projet de loi, et présentèrent un écrit imprimé qu'ils demandaient qu'il fût lu. Après quoi, les ayant fait retirer, et la Chambre ayant repris le débat du dit projet de loi, il est résolu que le dit projet de loi soit adopté, et que le titre du dit projet de loi soit « Loi pour prévenir les méfaits et les dangers qui peuvent survenir du fait de certaines personnes appelées Quakes et d'autres refusant de prêter des serments légaux ». Eh bien, malgré tout, l'Esprit du Seigneur et un zèle pour sa vérité étaient sur nous, afin de la poursuivre avec un témoignage fidèle contre elle partout où elle irait. Et nous remîmes quelques manuscrits à des membres de la Chambre haute, ainsi que plusieurs raisons par écrit, et nous espérions avoir été entendus par eux s'ils avaient poursuivi. Le Seigneur rendit nos efforts efficaces pour décharger notre conscience et les informer de l'innocence de notre cause et du caractère injustement destructeur du dit projet de loi. Mais le Dieu de notre paix et de notre bonheur, par sa puissance, y mit un frein dans cette chambre, de sorte que les lords ainsi nommés ne le lurent qu'une fois dans leur chambre, puis le mirent de côté, et n'y donnèrent pas suite. Ce fut par la bonté du Seigneur, afin de contrarier et d'arrêter la volonté de beaucoup de nos adversaires qui cherchent notre destruction. La gloire de cette délivrance présente appartient au Dieu du ciel, et elle lui est rendue. Le Parlement est maintenant ajourné jusqu'au 20 du 9e mois, et rien n'a été effectué par eux contre nous, quoique le projet de loi susdit existe toujours contre nous, et quant à savoir s'ils pourront le faire ressortir à leur prochaine session, je laisse cela au Seigneur, qui fait et permet que soit fait tout ce qu'il veut. Ayons donc égard à lui seul, et marchons humblement devant lui, et soyons dans une parfaite patience pour faire ou souffrir quoi que ce soit pour son nom, et pour la vérité bénie qu'il nous a donnée à professer et à pratiquer. Ainsi j'ai brièvement donné la substance d'un récit quant à la manière sans toutefois entrer pleinement dans la matière des procédures dans le cas susdit, un compte rendu particulier des nombreux manuscrits qui leur ont été remis, des discours et entretiens verbaux avec eux, des ordres de la Chambre, et d'autres choses relatives à cette affaire. Que tous les amis marchent dans la douceur et l'humilité, dans la fidélité envers Dieu, et dans la sagesse, la patience et la bienveillance envers tous les hommes, afin que vous soyez tous préservés dans une conscience pure, et que vous méritiez une réputation d'inoffensivité en toutes choses parmi vos voisins, afin qu'aucune juste occasion ne soit prise contre nous par nos adversaires, mais qu'en leur conscience ils soient contraints de reconnaître l'innocence de notre conduite. S'ils agissent contre nous et nous font souffrir, ce peut être de leur part contre connaissance, et de notre part pour la cause de Dieu seulement, et pour l'amour de sa vérité, et non pour avoir mal agi. Tenez vos réunions, avec toute sagesse et dans la crainte du Seigneur, pour l'édification de vos âmes, et que Dieu Tout-Puissant vous préserve tous, votre ami, connu de vous dans la vie invisible de justice. Edward Burroughs, 7 mots, 1661. Avec le bref compte-rendu ci-dessus, on a trouvé de la même écriture une copie des raisons et considérations d'Edward Burroughs contre le dit projet de loi, présenté aux Lords Assemblés au Parlement. Ces raisons sont rédigées dans un langage très vigoureux, et ressemblent assez à celles présentées à la Chambre des communes. Elles se concluent par la déclaration noble et mémorable suivante. C'est là l'état parfait de notre cause, et nous voilà réduits à une extrémité absolue, ou bien désobéir à la loi de Dieu et renier le Christ devant les hommes, et ainsi perdre nos âmes et nous placer nous-mêmes sous la colère de Dieu, ou bien désobéir à la loi que vous projetez, et ainsi exposer nos personnes, nos biens, nos vies et nos familles à une ruine totale en ce monde. Car la loi de Dieu et cette loi, dans les cas mentionnés, sont manifestement opposées l'une à l'autre, car le Christ a dit « Ne jurez pas du tout » Matthieu 5, 34, et l'apôtre Jacques a dit « Mais surtout, mes frères, ne jurez point, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Que votre oui soit oui, et votre non non, de peur que vous ne tombiez sous le jugement » Jacques 5, 12, mais cette loi enjoint de jurer, et quiconque refuse de jurer subira de telles confiscations, peines et bannissements. S'il vaut mieux obéir à la loi de Dieu ou à celle-ci, et encourir le déplaisir de Dieu ou le vôtre pour désobéissance, vous en serez juge. De plus, Dieu nous a commandé de nous réunir pour l'adorer en esprit et en vérité, et l'apôtre a exhorté, Hébreux 10, 25, à ne pas abandonner nos assemblées, mais à nous exhorter les uns les autres, et à ne pas pécher en négligeant notre devoir, sous peine d'une certaine attente terrible du jugement et d'une ardente indignation de la part de Dieu. Et c'était la pratique des chrétiens primitifs de se réunir et de s'asseoir parfois dans des maisons particulières, mais cette loi interdit nos réunions, sous de telles confiscations et peines. Laquelle de ces deux lois est la plus juste et doit être obéie, que le Dieu du ciel et vos propres consciences en témoignent. Si nous désobéissons à l'une, nous attirons la colère de Dieu jusqu'à la destruction de nos âmes, et si nous désobéissons à l'autre, nous attirons la colère des hommes jusqu'à la destruction totale de nos familles, de nos biens et de nos vies en ce monde. Tel est notre cas présent, et notre triste extrémité, mais nous sommes résolus, au nom du Seigneur, à obéir à Dieu et à ses lois et commandements justes, quand bien même nous souffririons une destruction totale en ce monde, et nous confierons au Dieu du ciel notre cause, qui est la cause d'une bonne conscience, qui est celle du Seigneur et non la nôtre, de lui et non de nous-mêmes. Nous marcherons dans les voies de sa vérité et de ses commandements, et nous nous réunirons pour adorer le Père en esprit et en vérité, et nous y exhorterons les uns les autres pour notre consolation et notre édification dans le Saint-Esprit, nonobstant toute loi humaine contraire, et si pour ce faire nous périssons, nous périssons. Notre sang sera sur nos persécuteurs, et la récompense de notre destruction retombera sur vous, si vous continuez à promulguer des lois contre la loi de Dieu, pour la persécution et la ruine de nous, son peuple. Nous désirons de tout cœur que vous preniez cela en considération et que la crainte et la sagesse de Dieu soient parmi vous. » Edward Burrough, dans les journaux de la Chambre des Lords, figurent les inscriptions suivantes relatives à ce projet de loi, 28 mai. Une pétition fut présentée à cette chambre par quelques Quakers, dont la lecture fut ordonnée, et après un long débat, il est ordonné que cette pétition soit renvoyée au Lord suivant, afin d'examiner un remède approprié pour guérir les afflictions de ces personnes, et d'en faire rapport à cette chambre. Le Lord du Sceau privé et beaucoup d'autres, en tout 37 pairs, parmi lesquels les comtes de Pembroke et d'Anglesey ont mentionné dans ses lettres, ainsi que le comte de Bridgewater, persécuteur notoire nommé dans les écrits d'Isaac. 31 mai, le comte de Pembroke rapporta de la commission qui avait été nommée pour examiner la pétition des Quakers, que la commission, après un long débat, était d'avis que la seconde proposition dans le mémoire remis par les Quakers, concernant « oui » et « non » devant être acceptée en lieu et place des serments, devait être rejetée. Que la commission, l'ayant rejetée, jugea bon d'offrir comme son avis qu'un serment promissoire devait être proposé aux Quakers, tel qu'aucun bon sujet ne peut ni ne doit refuser. Que la troisième proposition concernant les marques de respect et le fait d'ôter son chapeau soit rejetée. Que la quatrième clause, concernant leur non-participation au culte public, et la première en dépendant quant à leur réunion privée, étant trop importante pour la décision de la commission, celle-ci jugea bon d'en faire rapport à cette chambre, pour que la chambre en débatte. La commission est aussi d'avis que la cinquième clause concernant le non-paiement des dîmes doit être rejetée. Que la sixième clause concernant le fait de ne pas observer certains jours et certains aliments, dépendant de la quatrième concernant le culte public, doit également être débattue par l'ensemble de la chambre. Que la commission examinera la seconde partie de l'ordre de la chambre visant à remédier aux distempées de ces personnes lorsqu'elle aura reçu la résolution de la chambre concernant la troisième clause soumise à sa résolution par la commission. 23 juillet, le projet de loi est lu une première fois, mais la chambre s'ajourne, le 26 novembre. Il est lu une seconde fois et renvoyé en commission, dans cette commission siège 6 évêques York, Londres, etc. Le projet de loi est rapporté en date du 29 novembre. Avec des modifications, il est de nouveau renvoyé en commission, il est rapporté une fois encore avec des amendements le 17 déc, puis renvoyé encore une fois en commission, 1662 16 janvier. Le comte de Bridgewater fait rapport sur le projet de loi. Il est de nouveau renvoyé en commission et ordonné d'en limiter la portée aux seuls Quakers. La commission doit se réunir demain matin à 8 heures. 28 janvier. Le projet de loi est de nouveau rapporté et des modifications sont approuvées. Il est lu une troisième fois et adopté, et il est envoyé aux communes afin de solliciter leur accord sur les modifications. 18 février. Un message des communes est apporté pour demander une conférence au sujet du projet de loi concernant les Quakers le lendemain matin, à 11 heures, dans la Painted Chambée. Lord Chancelier rapporte le résultat. Les communes ne sont pas d'accord sur certains points, à savoir, elles s'en tiennent aux Mothers dans le titre du projet de loi, afin d'englober tous les autres qui refusent les serments en dehors des Quakers, tels que certains anabaptistes. Retirer le Mothers frustrerait la fin du projet de loi, et de plus il n'est pas facile de définir ce qu'est un Quaker, si l'on restreint ainsi. Et il n'est pas possible d'énumérer tous les noms sous lesquels diverses sectes se désigneraient pour éluder ce projet. Et elles ne sont pas non plus d'accord avec l'amendement « Any ten or more persons », car le mal peut être grand lorsque cinq se réunissent, mais le remède n'est pas aussi facile lorsque dix se réunissent. La Chambre des Lords renvoie de nouveau toute l'affaire à la même commission précédemment nommée. Elle ordonne d'ajouter le mot « others » et d'étendre aussi le projet de loi à tous les autres qui soutiennent que tous les serments sont illégaux. D'autres modifications sont proposées, et une autre conférence entre les deux chambres a lieu le 1er mars 1662. Le 2 mai 1662, l'assentiment royal au projet de loi est rapporté. La lettre suivante se rapporte à l'avancement de ce projet de loi. Edward Burrough et Ellie Rooks aux Amis Londres, le 24 du 10e mois 12e mot. 1661, très chers amis bien-aimés, dans la vie, la puissance et l'esprit de notre Père Céleste, nos âmes vous saluent tous, priant de tout cœur pour vous, afin que la paix, les bénédictions et l'assurance vous soient continuées et accrues à jamais. Demeurez et marchez dans la grâce de Dieu, qui vous gardera purs et parfaits, et tenez vos réunions au nom et dans l'Esprit du Christ, et le Seigneur sera parmi vous. Quant aux choses ici parmi nous, en ce qui concerne la vérité, elles vont très bien, et la vérité de Dieu est en estime parmi les justes et croît chaque jour en domination sur les esprits mauvais du monde, et les amis sont hardis et fidèles au Seigneur, prêts à être, à faire ou à souffrir quoi que ce soit pour le nom du Christ. Ils attendent patiemment, dans la volonté du Père, de recevoir de lui toujours davantage de sa vie, de sa sagesse et de sa plénitude. Quant aux procédures au Parlement, voici, depuis leur dernière assemblée, ils nous ont mis dans plusieurs débats parmi eux dans les deux chambres, et beaucoup supposaient et tous nos ennemis le souhaitaient que le projet de loi préparé contre nous par les communes, et envoyé à la Chambre haute lors de leur dernière session, dont vous avez déjà eu un précédent compte rendu, aurait été achevé contre nous par la Chambre haute durant cette session. Il a été examiné à plusieurs reprises, tant en Chambre que par la commission nommée à cet effet, commission où siégeaient 6 évêques, et le zèle ne manquait pas chez plusieurs pour le faire avancer et l'achever, mais quoi qu'il en soit, le dernier 3e jour de la semaine, ils s'y sont attaqués comme pour la dernière fois, et selon le cours de la procédure, il devait alors être tranché contre nous, mais il a été décidé parmi eux par la négative, ainsi il est ajourné pour le moment jusqu'à leur prochaine réunion. Ce qui sera alors fait, nous devons le laisser au Seigneur. Le dernier 6e jour, ils se sont ajournés jusqu'au 7 du mois prochain. Voilà le résumé des procédures actuelles nous concernant. Il y a une certaine main du Seigneur dans l'ordonnancement de ces affaires, qui, jusqu'à présent, a empêché le dessein de nos adversaires et réduit à néant le conseil de ceux qui désiraient notre destruction bien avant ce jour. Mais que les amis marchent dans la crainte, et dans la sagesse et le conseil du Très-Haut, et que le monde n'ait rien de mauvais à vous reprocher dans les choses de ce monde, rien, sinon les choses de Dieu et pour l'amour de son culte. Et si nous sommes persécutés et souffrons uniquement en tant que tels et pour cette cause, le Seigneur sera notre paix et notre récompense éternelle. Edward Burroughs, Ellie Rooks, d'après une ancienne copie Henry Fell à Thomas Altraus, Londres, le 3 du 12e mois 1661. Second mot, 1662. Ici à Londres, les réunions sont aussi calmes que jamais, et nombreuses, et d'une manière générale, les amis vont bien. Nous apprenons que l'acte contre les réunions a été adopté par les deux chambres, mais que le roi ne l'a pas encore signé. Certains des lords et l'évêque d'Exeter ont parlé contre, pourtant, le chancelier et la plus grande partie l'ont emporté. Un ami m'a dit aujourd'hui qu'il avait été auprès de Marsh, l'un des gentilshommes de la chambre, pour lui remettre un document sur les souffrances des amis dans les plantations à l'étranger, afin qu'il le remît au roi, et il dit à l'ami qu'il avait entendu le roi déclarer qu'une liberté de conscience serait accordée à nos amis dans les plantations à l'étranger, et qu'il en avait l'intention, et il ne doutait pas d'obtenir un ordre en ce sens. Je suis, votre cher frère, dans le labeur et les voyages de l'Évangile, Henry Fell d'après l'original No. XXX. La lettre suivante décrit quelques-unes des conséquences de la cruelle loi du Parlement contre les amis, que nous venons de quitter, mais pour un récit détaillé des persécutions et cruautés continues infligées aux amis à la suite de cette loi, voir le relevé qui en est fait d'Ambès, Account of the Sufferings of Free and de Vol, in Full. Ellie Rooks à Margaret Fell, Londres, le 28 du 8e mois, 10e mot, 1662. Cher M. F., le souvenir de votre amour m'est très rafraîchissant, et quant aux événements d'ici, les nouvelles sont vraiment tristes, néanmoins je pense devoir vous informer de notre situation. Le dernier premier jour, aussi innocemment que jamais, les amis ont tenu leur réunion habituelle, et vers la 10e heure la garde montée est arrivée avec leurs casques et leurs cuirasses, et ils sont restés à Chipshead. Puis les hommes de la milice entraînée sont venus au Bull Bull and Mouse Meeting House, et ont saisi tous les amis qu'ils pouvaient, ce qui était un très grand nombre. Certains ont été portés en prison sur leurs mousquets, et d'autres fortement battus et maltraités aussi mal qu'autrefois, le même homme commandait les soldats que ce qui s'est passé dans d'autres réunions quant aux outrages et aux coups, je ne puis ici le rapporter. Mais ce jour-là, dans plusieurs réunions, environ 80 personnes furent prises et emprisonnées, 96 étant mises dans la prison commune, tous des hommes sauf 3 femmes. Ce jour-là, ils ont arrêté une multitude de baptistes, j'entends dire que 720 doivent être amenés de Westminster à Newgate, où ils ont été pris après interrogatoire. Quelle est la raison de cette calamité soudaine qui nous est tombée dessus si imméritée? Je ne le sais pas avec certitude, mais plusieurs bruits courent sur la cause de tant nous affliger. La principale chose alléguée est qu'un complot aurait été découvert, et j'entends dire que les baptistes se sont réunis ce matin-là à la 3e heure en l'un de leurs lieux de réunion. Le major général Brown asterisque l'a pris, et se rendit à Whitehall à 4 heures du matin, mais s'ils se réunirent pour quelque mauvaise fin, pour comploter ou semblable, je n'en sais rien. Asterisque Brown était autrefois dans l'armée de Cromwell, mais ensuite échevin et lord maire de Londres. Voir chez Soule le récit des cruautés terriblement inhumaines de Brown envers les premiers Quakers à Londres. Le roi et le conseil voudraient que les amis promettent qu'ils ne prendront pas les armes contre le roi, mais nous n'avons pas encore répondu autrement. Mais vous connaissez notre principe, vivre dans la paix et la tranquillité, et c'est notre joie, et ce qui nous conduit à souffrir plutôt que de perdre la paix avec Dieu dans nos consciences, nous conduit aussi à vivre en paix avec tous les hommes, cherchant leur bien et leur bonheur éternel. Ainsi, avec mon cher amour pour tous vos enfants et pour tous les amis, je demeure votre cher ami. Ellie Rooks, j'ai eu récemment des nouvelles de George, il était dans le Northamptonshire et allait très bien. Je souhaite recevoir de vos nouvelles. Depuis que j'ai écrit ce qui précède, je suis allé à Newgate, et ils y ont amené 7 vins baptistes de plus et 8 amis, on crie qu'ils doivent tous être bannis. D'après l'original, il est assez remarquable que, peu après l'adoption de la loi contre les amis, une autre proclamation royale de grâce ait été publiée en leur faveur. On affirme en effet qu'elle fut émise à l'occasion de l'entrée dans le pays d'une reine consort. L'extrait suivant de la chronique de René décrit la proclamation. 22 août 1662, lettre de grâce et d'indulgence du roi aux Quakers et autres séparatistes, adressée au Lord Maire de Londres, Charles Eyre. Il nous a été rapporté qu'il y a plusieurs personnes se présentant sous le nom de Quakers et d'autres noms de séparation, maintenant dans les prisons de Londres et du Middlesex, pour avoir été à des assemblées illégales, lesquelles professent pourtant toute obéissance et fidélité à notre égard. Nous serions heureux que tous nos sujets puissent être amenés à s'accorder dans un culte uniforme de Dieu, et nous espérons que la prévoyance des dangers où ils se jettent par un mépris volontaire des lois, et notre indulgence présente, prévaudra chez quelques-unes de ces personnes pour les ramener à une meilleure conformité. Et c'est pourquoi nous saisissons volontiers ce temps et cette occasion de joie publique pour la première arrivée de notre chère épouse, la reine, en notre palais royal de Westminster, afin de vous déclarer notre bon plaisir royal, à savoir que vous fassiez relâcher tous ces desdites personnes dans nos prisons de Londres et du Middlesex, qui n'ont pas été inculpées pour refus du serment d'allégeance, et qui ne vous paraîtront pas avoir été meneurs ou prédicateurs dans leurs assemblées. Donné à Hampton Court, le 22 août 1662. Kenney, P. 746, No. XLN cette année 1662, l'œuvre de persécution contre les amis fut poursuivie avec une ardeur et une cruauté accrue, sous l'acte contre leur réunion. George Whitehead dit, « Nos réunions à Londres et aux environs étaient dispersées par la force et la violence, par les milices entraînées et les officiers, surtout les premiers jours de la semaine, c'était ordinairement ce qu'ils faisaient ce jour-là, qu'ils prétendent être leur sabbat chrétien et le jour du Seigneur à garder saint. » Il ne fallut pas longtemps avant que George Whitehead lui-même, avec ses amis R. Robeson et Edward Burrough, ne devienne victime de cette sévère persécution, arraché d'une réunion et incarcéré à Newgate. Dans cette prison, les amis étaient entassés ensemble avec si peu de pitié qu'une fièvre violente éclata parmi eux, dont certains moururent. Avant l'expiration du temps de leur emprisonnement, G. W. nous informe que ses chers frères et compagnons de labeur dans l'Évangile, R. H. et Edward Burrough tombèrent malades, et qu'il plut au Seigneur de les délivrer de leurs souffrances par la mort. Voir le récit de l'emprisonnement et de la noble mort d'Edward Burrough sur ce site, dans le mémoire consacré à Edward Burrough. Le registre d'inhumation concernant R. Robeson a déjà été donné. L'extrait suivant d'une lettre intéressante d'Edward Burrough, écrite peu avant son décès, est tiré de Bess Sufferings Vol. IP 390. Il mourut à environ 28 ans, dont 10 qu'il avait consacré à l'œuvre du ministère. Edward Burrough, aux amis de Newgate, 1662. Les amis ici vont généralement bien dans l'homme intérieur et extérieur, et la présence du Seigneur se manifeste avec nous, au travers de grandes épreuves et de rudes afflictions, et de pénibles persécutions que nous avons rencontrées ces 6 derniers mois. Il serait trop long à raconter, et cela percerait vos cœurs de l'entendre, que la violence et la cruauté que les amis ont souffertes dans cette ville, dans leurs réunions et dans les prisons, il m'est échu le dur lot de porter la persécution infligée de toutes parts, bien que le Seigneur ait donné force et hardiesse, et que sa seule puissance ait fait traverser ces épreuves, autrement beaucoup se seraient évanouis et n'auraient pas pu tenir bon. Plusieurs ont donné leur vie dans la fidélité, en ce lieu, et leur fidélité à tenir les réunions, et à endurer patiemment beaucoup de tribulations et d'épreuves cruelles, est une couronne sur les amis de cette ville. Nous sommes maintenant près de 250 prisonniers à Newgate, Bridewell, Southwark et à la New Prison. À Newgate, nous sommes extrêmement entassés, de sorte que si la miséricorde du Seigneur ne nous avait pas préservés, nous n'aurions pu le supporter. Il y a près d'une centaine dans une seule pièce du côté commun parmi les criminels, et leurs souffrances sont grandes, mais le Seigneur soutient. Pendant environ 6 semaines, les réunions furent généralement paisibles dans la ville, mais ces 3 dernières semaines, ils s'y sont attaqués plus violemment que jamais, et beaucoup d'amis ont été emprisonnés. Mais à travers tout cela, la vérité est en bonne réputation, et sa noblesse gagne place dans de nombreux cœurs, qui s'ouvrent à la pitié et à la compassion envers les innocents qui souffrent, et la vérité grandit au travers de toutes les épreuves. Notre confiance est dans le Seigneur et non dans l'homme, et nous désirons que le même esprit demeure et habite aussi en vous, afin que vous soyez animés des mêmes sentiments que nous, et que vous ayez tous l'esprit du Christ, lequel cherche le salut des hommes, et non leur destruction. Edward Burrough, No. Ixley Alexander Park à George Fox, Londres, le 7 du 5e mois, 7e mot. 1663 Cher Georges, depuis mon arrivée ici nous avons eu beaucoup de bons services pour le Seigneur, les réunions sont très nombreuses, et ces derniers temps très paisibles, sauf à Spitalfield, on y a tenu les amis à l'extérieur, et ils se sont réunis dans les rues pendant 3 premiers jours, et le dernier premier jour Joe. Higgins s'y trouvant et se levant pour dire quelques mots, fut emmené par les constables et les soldats, et conduit devant l'un des échevins, qui, après interrogatoire, le fit écrouer au Poultry County, où il demeure encore. J'étais auprès de lui aujourd'hui, il était en bonne santé. Je suis aussi allé à Westminster, mais je ne puis apprendre que le Bill pour la conformité, réprimant les réunions Quakers, ait encore été adopté par la Chambre haute. Les amis ont tenu leurs réunions au Bull and Mouse ces 3 derniers premiers jours. J'y étais le dernier premier jour, et nous avons eu une bonne réunion, favorisée et solennelle, et bien plus nombreuse que jamais auparavant, au point que beaucoup furent contraints de rebrousser chemin faute de place. Morgan Watkin était à pêle-mêle le dernier premier jour, très calmement. Josiah Coal à Peel, John Shield à Rosslydown W. Brown et Gerard Robert à Mill End, tous très paisibles, Alexander pan que d'après l'original. Quand les soldats les empêchaient d'entrer dans leur maison de réunion, écrit Soule, ils n'avaient pas coutume de s'en aller, mais se tenaient devant le lieu, et ainsi leur nombre augmentait. Puis l'un ou l'autre de leurs ministres montait généralement sur un banc ou quelque endroit élevé, et prêchait hardiment. Ainsi, il obtenait parfois plus d'auditeurs qu'il n'en aurait eu autrement. Quand un ministre était tiré de là, un autre se levait et prêchait, et ainsi souvent 4 ou 5 furent emmenés l'un après l'autre, et conduits en prison. Cette tenue des réunions dans la rue devint alors une chose habituelle. Les amis étaient persuadés que l'exercice de leur culte public était un devoir dont nul homme ne pouvait les dispenser, et ils croyaient que Dieu exigeait l'accomplissement de ce service de leurs mains. Ainsi, ils attiraient de nombreux auditeurs, et parmi ceux-ci parfois des hommes éminents, qui, passant dans leur carrosse, faisaient arrêter leur cocher. À ce rythme, ils trouvèrent qu'il y avait une grande moisson, et ainsi leur église grandit au milieu des souffrances. Soul vol, YPP, 4-5, No Xli au sujet de l'auteur de la lettre suivante, Josiah Coal, notre historien Soul a laissé ce témoignage. Sa vie et sa joie étaient de déclarer l'Évangile et de proclamer la parole de Dieu, pourquoi il avait une aptitude excellente. Lorsqu'il parlait au monde impie, une gravité solennelle paraissait sur son visage, et ses paroles étaient comme un marteau et une épée tranchante. Mais bien qu'il fût un fils du tonnerre, son discours agréable coulait de sa bouche comme un ruisseau plaisant, pour la consolation et le réconfort des âmes pieuses. Avec quelle émotion l'ai-je entendu prier, lorsqu'il, comme transporté et ravi, suppliait humblement Dieu qu'il lui plût de toucher les cœurs endurcis, de soutenir les pieux et de les conserver fermes. Non, avec quelle voix charmante et mélodieuse faisait-il retentir les louanges du trésor dans ses prières publiques. Il avait beaucoup voyagé aux Indes occidentales, enduré de grandes privations, et travaillé au ministère à ses propres frais, se donnant librement à dépenser son bien au service du Seigneur. Bien qu'il ait traversé de nombreuses persécutions, emprisonnements et autres adversités, il ne craignait pourtant pas le danger, mais était toujours vaillant, et il demeura dans l'état de célibat afin de pouvoir travailler plus librement à la moisson céleste, et beaucoup furent convertis par son ministère. Il mourut en 1668, History of Friend Vol. Y, à l'année 1668. Ce qui suit est une copie de l'inscription de son décès dans le registre des décès de la réunion trimestrielle de Londres et du Middlesex. Josiah Coal, âgé d'environ 35 ans, quitta cette ville le 15 jour du 11e mois 1668, chez Mary Forster dans John Street, ayant affaibli et usé son homme extérieur dans l'œuvre et le service du Seigneur, dans le ministère de l'Évangile éternel, et fut enterré dans le cimetière de Shakehalley. Josiah Coal à George Fox 22 du 7e mois 9e mot. 1663 Cher Georges, avec un amour ferve, cordial, sincère et vrai qui est de Dieu, et dont mon cœur est à cette heure rempli, je te salue très affectueusement, dans la crainte du Seigneur, comme bien-aimé de mon âme. Je te fais savoir que, dans la droiture de cœur envers le Seigneur, ma vie demeure encore abandonnée à son service, et sa précieuse présence et sa puissance toute-puissante demeurent encore avec moi, par quoi, je bénis Dieu, je suis encore pour son service comme jamais. Mon cœur est rempli d'une ardeur de zèle pour son nom et sa gloire, de plus en plus de jour en jour. Le plein contentement et le désir de mon âme m'accompagnent, il élargit mon cœur par sa puissance, si bien qu'en vérité rien n'est trop cher pour moi à quitter, ou à en souffrir la perte pour l'amour de lui. Cher Georges, il y a maintenant près de 6 semaines que j'ai quitté la ville de Londres, et j'ai visité les amis à la campagne dans le Surrey, l'Oxfordshire et le Bedfordshire. Je compte visiter aussi les amis dans l'Hertfordshire, avant de retourner en ville, car en vérité je n'en suis pas dégagé, mais le cher A. P. et Morgan Watkins s'y trouvant, cela m'en décharge pour le moment. Je crois que tu as entendu parler des troubles et des emprisonnements survenus dernièrement, mais le dernier premier jour, j'entends dire que tout était calme et en bon ordre. J. Audelan et J. Story sont vers Bristol, Joseph Coal est parti vers l'ouest. Je n'ai guère plus à te signifier pour le présent, sinon qu'ayant cette occasion, j'avais à cœur de te faire savoir mon amour sans feinte, que je crois que tu connais bien, moi qui suis à toi dans le Seigneur. Josiah Coal, d'après l'original, voici une autre lettre No. 228, parmi les 410 lettres de George Fox, insérées dans l'ordre chronologique. George Fox aux amis convaincus, mais pas encore régénérés, au sujet du jugement selon la chair de la prison de Lancaster, le 6 jour 1663. Chers amis, vous qui avez goûté ce qui est précieux, et senti la vérité vous convaincre, et aussi senti la puissance du Seigneur Dieu. Je sens chez certains d'entre vous quelque chose qui n'est pas droit, et comment certains montent dans la partie sage, mais sont hors de la puissance et hors de la vie, et c'est avec cela qu'ils jugent, et qu'ils regardent les pailles dans les yeux des autres, tandis que la poutre est dans leurs propres yeux. Oh, n'abusez pas de la puissance dans laquelle est la communion de l'Évangile, qui gardera tous dans l'unité, et n'attristez pas l'esprit, dans lequel est la véritable communion et le lien de la paix. Tenez bas l'orgueil, ne méprisez pas les prophéties, et n'éteignez pas l'esprit, fût-ce le moins du monde, car c'est la chair et non l'esprit en vous-même qui fait ainsi. Ne jugez pas avant le temps que le Seigneur vienne, lui qui met en lumière toutes les choses cachées des ténèbres en vous. Ne courez pas dans les choses extérieures, c'est l'esprit charnel, qui courra d'une chose à l'autre, et sera sans repos, et ne saura pas sur quel siège s'asseoir. Après avoir été dans une chose extérieure, il courra dans une autre, et appellera cela sa croissance dans la vérité, et se mettra à juger les autres. Mais ce jugement est selon la chair, et leur croissance est dans la chair, car ses fruits sont crêles, médisance, chuchotement. Ainsi les fruits de toute naissance se manifestent, les fruits de l'esprit sont amour, paix, vérité, simplicité, justice et piété. Mais les fruits de la chair sont médisance, chuchotement, mensonge, calomnie, scandale. Et donc considérez ce que cette naissance a produit et ayez honte, qui a exalté les choses extérieures, et ce dans quoi elle a couru, et ce où elle vous a entraîné, vous qui êtes, et de quoi elle vous a arraché, et si vous n'êtes pas arrivé à une perte, et si vous n'êtes pas allé dans la chair et dans l'air, et n'avez pas perdu vos premières demeures de tendresse, de compassion, car toute naissance connaît les siens et s'attriste lorsque les siens sont jugés, et n'aimera jamais la franchie et le jugement juste, qui sont honnêtes et vrais, mais voudra le coussin. Et donc souvenez-vous de votre première demeure et de votre premier amour, et de ce qui vous a convaincu, afin que vous veniez tous dans la vie et la puissance pour vous asseoir dans la demeure de celle-ci, dans l'amour, la vie et l'unité, et qu'il ne se trouve parmi vous ni médisant ni langue calomnieuse, ni menteur, ni chuchoteur, ni reprocheur, ni homme qui se mêle de tout. Car s'il y en a, cela fera lever le levain les uns chez les autres, et fera venir sur vous les ténèbres et la mort. Si donc, comme je l'ai dit auparavant, demeurez dans la puissance de Dieu, par laquelle vous pouvez garder l'unité, la vie, l'amour et la paix, et dans cette puissance de Dieu, vous pouvez être arraché à la puissance de Satan pour être élevé dans la puissance de Dieu, où est ma vie, et où est mon habitation et ma demeure, là où je connais le vêtement sans tache caché à toutes les langues, lèvres, mains et yeux des bêtes impures. Et bénissons tous ceux d'entre vous qui demeurent dans la puissance et ont gardé leur première demeure, car vous grandissez comme des... George Fox No. Ixley et Lee Rooks à Margaret Fell, Londres, le 9 du premier mois, troisième mot, 1664. Cher M. F. Mon amour cher et véritable est pour vous et pour George Fox. Ayant appris votre emprisonnement au château de Lancaster, je vous écris, et je souhaiterais que George Fox voie ce qui est ci-joint. Concernant les souffrances des amis, je les ai rassemblées en trois copies, l'une pour le roi, et les deux autres pour les speakers, puis j'ai l'intention de l'imprimer. 40 amis ont été pris le dernier premier jour à Reading, ce qui portera à environ 650 le nombre de prisonniers. La semaine dernière, trois amis ont été sortis morts ensemble, le même jour de la prison de Northampton. John Sam était l'un d'eux, Daniel Wills et plusieurs autres sont très malades dans la prison, et ne semblent pas devoir vivre, il y a 27 personnes dans cette prison. J'ai bien davantage que je pourrais écrire, mais je n'ai pas en ce moment une occasion commode. Ainsi avec mon cher amour, je demeure votre ami. Ellie Rooks, d'après l'original, John Sam était un fidèle ministre de l'Évangile, un travailleur incessant dans l'œuvre du ministère, et d'une vie et d'une conduite exemplaires. Fièvre violente avait éclaté dans cette prison et frappa d'abord certains criminels, auxquels, en tant que créatures semblables et compagnons de captivité bien que pour une cause fort différente, les amis estimèrent qu'il était de leur devoir de porter assistance dans leur extrême faiblesse, et firent en conséquence ce qu'ils purent pour eux, jusqu'à ce qu'enfin l'air, étant extrêmement corrompu par le souffle des malades, une sorte de contagion se répandit parmi les prisonniers, et les amis tombèrent si généralement malades que leur... L'année suivante, 1664, certains d'entre eux moururent. Tous ceux-ci achevèrent leur course dans la paix et une pleine assurance de la foi, étant rendus capables, au milieu de leurs afflictions, de chanter des louanges au Seigneur et de bénir son nom, pour l'édification et la consolation les uns des autres, et à l'étonnement de ceux qui contemplaient leur piété et leur patience. Bess's Sufferings in Full, Vol. I. 533, No. Xlive Alexandre Pock à George Fox Fox était emprisonné au château de Lancaster, Londres, le 12 du deuxième mois quatrième mot. 1661 Cher George, le service est ici très grand et important, et nous ne sommes que peu pour l'accomplir. Nos réunions dernièrement ont été très nombreuses, et paisibles pour la plupart. Je n'ai rien connu de pareil depuis que j'ai vu Londres. Il n'y a guère de troubles, seulement parfois ils empêchent les amis d'entrer au bout les premiers jours, et à Spitalfield. Mais le dernier premier jour, les amis étaient à l'intérieur, et toutes les réunions dans et autour de la ville furent très calmes. À Reading, la plupart des amis hommes sont en prison, et j'ai entendu aujourd'hui qu'ils traînent et arrachent les amis femmes hors de la maison de réunion pour les mener en prison. J'ai aussi entendu que Thomas Curti était malade. De Bristol, j'ai reçu récemment des nouvelles, et à Kendall tout va bien, mais les officiers du maire viennent constamment aux réunions et prennent les noms des amis, mais n'en envoient plus en prison. Le Parlement est ajourné jusqu'au 18 jour de ce mois, à ce que j'entends. Ils n'ont encore rien achevé contre les non-conformistes, mais on rapporte qu'il y a à la Chambre un projet de loi qui sera probablement très sévère. Jusqu'où ils iront, un peu de temps le montrera. J'espère que le Seigneur armera son peuple d'une hardiesse et d'une force à la mesure de l'épreuve. Cher Georges, que tes prières continuent pour nous, afin que nous persévérions jusqu'à la fin dans notre témoignage pour Dieu, afin qu'à la fin nous soyons couronnés de vie. Pour l'heure, il n'y a ici au service public que J. Coal et Joe, Gibson arrivés la semaine dernière, et moi-même, très cher bien-aimé, je n'ai pas beaucoup plus à vous signifier à présent, sinon un amour très véritable pour vous et pour M. F. et les autres. Adieu, votre frère dans la communion de l'Évangile, Alexandre Pock d'après l'original, NXLV George Whitehead à George Fox Londres, 4 du 3e mois, 5e mois 1664 Cher George Fox, ayant cette occasion de t'envoyer ces lignes, j'ai jugé bon de te faire connaître quelque chose des affaires d'ici, depuis ma dernière lettre. Quant aux réunions dans la ville, elles se passent bien et sont généralement paisibles, seulement, les premiers jours du Seigneur les amis sont tenus hors de la Mouse Bull and Mouse. Le dernier premier jour, j'y étais dans la rue, et j'y ai eu un très bon service, et il y eut un grand concours, et l'après-midi, j'ai eu une très bonne réunion à Rosley Down. Je ne crois pas que le projet de loi contre les sectaires soit adopté à la Chambre haute, mais à la Chambre basse il l'est, et on est s'attente à ce qu'il le soit dans les deux. L'adresse de M. F. au sujet de vos souffrances là-bas a été remise la semaine dernière au roi par Elizabeth Bell et une autre amie, et le roi leur a ordonné de se rendre hier chez le secrétaire pour une réponse, ce qu'elles ont fait en conséquence. Sa réponse fut en substance que le roi ne pouvait rien y faire, car il s'en était remis au conseil et au parlement. Depuis que je suis venu dans cette ville, j'ai été quelque peu préoccupé de ce que les livres des souffrances n'aient pas été livrés plus tôt. Je ne sais pas comment Ellie Rox a hiérarchisé cette affaire. Hier, j'ai passé une grande partie de la journée à parcourir la ville pour les faire remettre. Aujourd'hui, j'espère qu'on en distribuera une bonne quantité, et ce matin Gilbert Latté s'emploie à organiser les femmes qui doivent les remettre. R. Farnsworth et Thomas Killam viennent d'arriver en ville, et John Higgin, Robert Lodge, Joe. Moon et John Gibson, je pense, sont tous actuellement en ville. Je ne sais pas qu'il y ait pour moi, à présent, autre obligation que de demeurer ici un temps considérable, car il y a pour moi quelques nécessités. Si les amis venus de Londres sont là-bas, probablement à Lancaster, rappelez-moi à eux, et à tes compagnons de captivité, Margaret Fell et les autres. Ton cher frère, George Whitehead Rebecca Travers est parti vers Ipswich auprès des prisonniers. Fais-moi savoir à qui adresser mes lettres lorsque j'enverrai par la poste, et je te prie d'adresser ton courrier à W. Travers, à l'enseigne des Three Feathers, dans Watling Street. D'après l'original, une circonstance curieuse se produisit au Parlement au sujet de ce projet de loi contre les conventicules, une clause concernant les amis, destinée à faire partie du projet et qui avait été adoptée comme telle à la Chambre des Lords, fut perdue avant d'atteindre les communes. Une conférence eut donc lieu entre les deux chambres lors de la troisième lecture, à l'issue de laquelle le comte d'Anglesey fit rapport à la Chambre des Lords, journaux des Lords à la date du 16 mai 1664. Que la Chambre des communes a fait savoir à leur seigneurie, lors de cette conférence, que depuis la dernière conférence libre, en examinant le dit projet de loi contre les conventicules séditieux, elle a constaté que la disposition concernant les Quakers manquait, disposition qu'elle estime être une partie essentielle du projet. C'est pourquoi elle prie cette chambre de remédier à cette lacune. Certains pairs attestèrent que le projet, avec ladite disposition, avait été remis au sergent Charleton. Une commission de pairs chercha alors le brouillon original de ladite disposition, qui fut retrouvé et reconnu identique. La clause perdue fut alors renvoyée aux communes, et le projet de loi arriva tout juste à temps pour recevoir l'assentiment royal. Cette loi contre les conventicules entra en vigueur le premier du mois appelé juillet de cette année et devait durer 3 ans. Il n'est peut-être pas inopportun, écrit G. Whitehead, de donner quelques comptes rendus de cette seconde loi du Parlement, conçue non seulement pour notre emprisonnement, mais aussi pour notre bannissement hors de la terre de notre naissance, et cela avec plus de célérité que n'aurait pu l'être par la première loi contre les Quakers, bien que le Seigneur notre Dieu n'ait pas permis que ce dessein de bannissement produise contre nous un effet aussi général que le souhaitaient nos persécuteurs malveillants, car par ses jugements, il a, dans une large mesure, déjoué nos adversaires. Toutefois, beaucoup de nos amis innocents furent condamnés au bannissement, mais peu en comparaison furent réellement embarqués ou bannis hors du pays. La loi prévoyait que si une personne de plus de 16 ans était reconnue coupable d'avoir assisté à une réunion, conventicule, sous le masque ou le prétexte d'un exercice de religion, autrement que selon ce qu'autorise la liturgie de l'Église d'Angleterre, elle devait être condamnée à une amende de 5 livres astérisque ou à 3 mois d'emprisonnement, pour la seconde infraction 10 livres ou 6 mois d'emprisonnement, et pour la troisième à la déportation pour 7 ans, les biens du contrevenant devant être saisis pour couvre. Sous l'empire de cette loi, nos assemblées religieuses furent souvent troublées et dispersées par les agents persécuteurs, les officiers et les soldats, et beaucoup d'entre nous furent appréhendés et conduits devant les magistrats, et aucun fait mauvais n'était prouvé contre aucun de nous, sinon d'avoir adoré le Seigneur Tout-Puissant selon leur conscience. Grandes furent les souffrances des amis en conséquence de cette loi cruelle, beaucoup furent rendus veuves et orphelins de père, et des amis honnêtes et industrieux, ainsi que leurs familles, furent douloureusement affligés, condamnés à des amendes et dépouillés de leurs biens. Astérisque la livre sterling d'alors équivaut à au moins 500 livres aujourd'hui. Enixlvy Mary Fell à sa mère, Margaret Fell Millend Green, près de Londres, 27 du 4e mois 6e mois 1164. Chère et tendre mère, mon devoir et mon très cher amour te sont librement donnés et rappelés, de même que mon très cher amour va à cher George Fox. C'est principalement pour te faire savoir qu'Ouhir, ma sœur et moi étions à Whitehall, où nous avons parlé au roi et lui avons dit que, s'il voulait bien signifier quelque chose au juge avant qu'il ne parte en tournée, pour te libérer, autrement il serait trop tard, car le temps des assises approchait. Il dit qu'il te libérerait si nous promettions que tu n'irais pas aux réunions. Ma sœur dit que nous ne pouvions prendre un tel engagement, car la réunion se tient depuis de nombreuses années et n'a jamais fait aucun mal. Il dit, « Votre mère ne peut-elle pas rester dans sa propre famille, puisqu'elle peut avoir 5 personnes présentes, mais il faut qu'elle ait de telles réunions tumultueuses. » Nous dîmes qu'elle n'a pas de telles réunions, ce ne sont que ses voisins qui viennent. Le roi dit qu'il y avait des Quakers dans le dernier complot. Ma sœur dit que cela ne pouvait être prouvé. Il dit qu'il avait des lettres à ce sujet, et leur nom. Alors Chiffin, gardien-chef, nous dit de revenir le 4e jour, et nous avons l'intention d'y aller demain. J'y étais il y a environ une semaine, et j'ai dit au roi que, comme les assises approchaient maintenant, s'il ne faisait rien pour toi, il te ferait tomber sous une prémunir astérisque et te prendrait ton bien, à toi et à tes enfants, et je l'ai prié d'y réfléchir. Il fut alors très aimant envers moi, et dit qu'il y réfléchirait, et il dit, « Ils ne lui prendront pas son bien », il me prit la main dès qu'il s'approcha de moi. Je parlai aussi au prince Rupert et le priai de le rappeler au roi, et il dit qu'il ferait ce qu'il pourrait, puis il alla vers le roi et lui parla. Le prince Rupert a toujours été très bienveillant envers les amis, et a souvent parlé au roi à ton sujet. Astérisque la prémunir était une condamnation prononcée par les tribunaux qui consistait en 1. La perte définitive de tous les biens, seuls les biens immobiliers pouvant revenir aux héritiers au décès, et 2. L'emprisonnement à vie, au bon plaisir du roi. Le prétendu crime était leur refus, fondé sur la Bible, de prêter un serment de loyauté au roi, refus que l'on présumait révéler la loyauté de la personne envers une puissance étrangère, en particulier le pape. La loi était ancienne, créée sous le règne de la reine Elizabeth Ier, et visait à débusquer les récusants papistes, mais étant restée en vigueur, elle fut injustement appliquée de nombreuses années plus tard aux Quakers, parce que par malveillance, les tribunaux savaient que les Quakers ne juraient pas, obéissant au commandement du Christ et de l'apôtre Jacques qui interdisent de jurer. Ainsi les tribunaux piégeaient les Quakers traduits devant, se réjouissant du résultat assuré, l'emprisonnement à vie. Les tribunaux étaient influencés par la hiérarchie cléricale protestante, déterminée à éradiquer les Quakers, qui vidaient leurs églises d'auditeurs payant la dîme. Lorsque l'emprisonnement à vie ne constitua plus une menace suffisante pour arrêter l'augmentation des Quakers, on adopta des lois permettant de bannir les Quakers de leur patrie, sans leur famille, et de les déporter vers les lointaines colonies caribéennes. L'ironie de ce serment de loyauté, adopté à l'époque d'Elizabeth Ier, après que sa sœur catholique et prédécesseur Marie eut fait brûler de nombreux protestants, était la suivante. Le pape avait publié une bulle déclarant qu'il était permis à un catholique de mentir sous serment si ses mensonges servaient l'intérêt de l'Église catholique. Ainsi la loi manqua complètement son but, mais, comme elle demeura en vigueur sans être abrogée, elle fut rapidement appliquée pour piéger les innocents Quakers, loyaux envers le roi. Ma sœur renouvelle le souvenir de tout son amour pour toi et pour cher George Fox, comme le fait aussi mon frère. Je suppose que les sœurs Isabelle et Sarah seront parties. Rappelle-moi aux sœurs Susanna et Rachel, je suis ta fille respectueuse et obéissante. Mary fait l'année indiquée par George Fox, 1664 d'après l'original, apparemment, adressée à Margaret Fell à Lancaster comme d'habitude, aux soins de Thomas Green, épicier là-bas. Nixlvy George Whitehead à George Fox et Margaret Fell prison du White Lion à Southwark, le 12 du 5e mois 7e mois 1664 cher George Fox et Margaret, mon amour sincère et droit est pour vous deux, et pour le reste des amis qui sont avec vous. Depuis l'écriture de la lettre ci-jointe, j'ai pensé qu'il convenait de vous l'envoyer, n'ayant pas, pour l'heure, la liberté d'écrire beaucoup vers le nord par la poste. Alexander Pock et Richard Farnsworth sont en ville et sont toujours en liberté. George, j'ai fait imprimer ton écrit aux amis, comme tu le souhaitais, et j'en ai distribué plusieurs autres. Samuel Fichet et Joseph Fuss sont toujours prisonniers, mais ont, de la part du geôlier, une liberté pour un peu de temps, mais nous devons être détenus sans caution. J'ai subi quelques durs traitements depuis mon arrivée ici. La première nuit où nous sommes venus, on nous a mis dans le quartier des criminels ordinaires, parce que nous ne pouvions consentir à soutenir l'oppression du geôlier. Et alors les criminels nous ont pris notre argent dans nos poches, selon leur coutume ivrogne appelée « garnish ». L'endroit était si infect que nous n'avions pas où poser la tête pour nous reposer. Mais je ne doute pas que le Seigneur ne fasse tourner toutes ces choses en notre faveur. C'est la volonté du Seigneur que je sois dans cette prison, et je m'en contente. Adieu ton cher frère George Whitehead. Quand l'un de vous m'écrit, adressez et placez la lettre en enveloppe à certains amis en ville pour plus de sûreté. Ces magistrats qui nourrissent un tel préjugé contre moi, au point d'exciter la cour contre moi, sont principalement de ceux qui ont tourné avec le temps. Je ne sais pas si je ne serai pas renvoyé à Whitehall, mais le Seigneur plaidera mon innocence. Quand vous aurez fini avec le 6 juin, envoyez la Kendall. J'entends dire qu'il y a près de 200 amis récemment emprisonnés à Bristol. Cher M. F., vous êtes souvent dans mon souvenir, et vous pouvez sentir mon cher amour. John Roux et vos filles Margaret et Mary étaient ici hier et vont bien. George Whitehead, d'après l'original, adressé à Lancaster, où ils étaient tous deux emprisonnés, Fox dans une cellule solitaire, Fell dans une salle commune. Quelques jours après son incarcération dans cette prison, George Whitehead fut accusé d'avoir participé à un complot dans le Nord, et que son nom était déguisé. Il fut donc emmené en bateau à Whitehall, gardé par des mousquetaires, le geôlier étant avec eux, où il fut interrogé. Mais un homme intervint alors, qui paraissait être un vieux gentilhomme, et entendant mes accusateurs dire que mon nom n'était pas Whitehead, il les contredit, disant que j'avais écrit plusieurs livres, sur lesquels le nom de George Whitehead était imprimé. Cela réduisit mes accusateurs au silence et empêcha tout examen plus approfondi. Ensuite, George Whitehead écrivit au secrétaire d'État pour se disculper de ses fausses insinuations, et l'affaire fut abandonnée. Il fut libéré de prison lorsque les trois mois, pour lesquels il avait été incarcéré, eurent expiré. Christian Progress de G. W. P. 282. La lettre ci-dessus parle de Samuel Fichet et de Joseph Fuss, au sujet desquels Bess donne le récit suivant. Vers la fin de cet été 1663, Samuel Fichet, Joseph Fuss, George Brigstock et Thomas Moore furent pris ensemble lors d'une réunion à Charlwood et conduits à la prison du White Lion à Southwark, où ils restèrent jusqu'à ce que deux d'entre eux, à savoir Samuel Fichet et Joseph Fuss, moururent. Samuel Fichet était un homme de grandes capacités et de grande érudition, auparavant prédicateur paroissial à Leeds, dans le Kent, mais il abandonna volontairement son bénéfice d'environ 400 livres par an, et s'associa quelque temps au peuple appelé baptiste. En l'an 1655, il fut convaincu de la vérité telle que professée par le peuple appelé Quakers, et par obéissance à celle-ci, il devint un fidèle ministre de cette même vérité, et voyagea beaucoup dans l'œuvre et le service du Seigneur, non seulement en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays. À Dunkerque, en Flandre, il rendit un bon service en témoignant contre l'idolâtrie des prêtres et des moines, et en proclamant la vérité à la garnison anglaise qui s'y trouvait. Il voyagea ensuite à pied à travers les Alpes jusqu'à Rome et porta un fidèle témoignage contre les papistes dans cette ville. Après son retour en Angleterre, au cours des quatre dernières années de sa vie, ses souffrances furent très grandes, car en 1661, il fut plusieurs mois prisonnier aux Gatous à Westminster. D'après sa libération, il fut arrêté dans la rue et envoyé au Wood Street Comté Prison. Puis après un certain temps conduit à Guildhall, où refusant de prêter les serments, il fut incarcéré à Newgate et y resta environ 12 mois. Et peu de temps après sa libération, il fut pris de nouveau à Chalwood et envoyé en prison à Southwark, comme dit plus haut, où après 2 années de détention, il se reposa de ses labeurs dans une parfaite paix avec le Seigneur, et fut très aimé tant de la fraternité que des autres. Il mourut le dernier jour du mois appelé août 1665. Joseph Fuss voyagea dans de nombreux pays dans l'œuvre du ministère et avait un excellent don pour convaincre les opposants, étant souvent exercé à des disputes avec des indépendants, des baptistes et d'autres prédicateurs. C'était un homme d'un esprit patient et doux, et très laborieux dans l'œuvre du ministère, partout où Dieu l'avait appelé. Sufferings de Bèze, vol. IP 681 et 693. NXLV Josiakoa à la George Fox Newgate, Londres, 22 du 6e mois, 8e mois 1664. Cher George, mon amour dans le Seigneur s'est envers toi et t'atteint chèrement. Et avec lui, je te salue très affectueusement dans le lien de l'amour et l'alliance de paix et de vie, dans laquelle le Seigneur, par sa puissance éternelle et son bras de force, en a rassemblé beaucoup en ce jour de son apparition et de sa bonté envers les fils des hommes, en laquelle nous sommes chaque jour rendus participants de ses richesses et de ses miséricordes sans fin, qu'il multiplie pour nous et renouvelle en nous par Christ notre Seigneur et notre vie. Par. Vraiment, cher Georges, le Seigneur n'est pas lent quant aux promesses de ses bénédictions envers sa propre semence, maintenant dans sa condition de souffrance, et il ne nous fait pas défaut dans ce temps d'épreuve. En vérité, je puis dire, en toute vérité, qu'il fait abonder en nous son amour et sa bonté, et fait déborder nos coupes. Que puis-je dire de son amour sans fin ? Il dépasse en vérité toute expression, car je ne sais ce que l'on pourrait désirer de plus que ce que le Seigneur a fait pour nous ou nous a donné, quant à la jouissance présente de son riche amour et de ses bénédictions, pour lesquelles bénédiction, gloire et louange soient à son nom à jamais. Amen. Et maintenant, cher Georges, pour te rendre compte des choses ici, et de ce qu'il en a été récemment, mon cœur m'y porte en ce moment. Il y a une semaine hier, après que j'eus annoncé la vérité au peuple au Bullenmouth pendant environ 1 heure et demie, le shérif vint, avec à mon jugement près d'une cinquantaine d'officiers de la ville, pour rompre notre réunion, et après avoir fait une proclamation dans la rue enjoignant à la foule de se disperser, car ils craignaient la multitude, qui était grande, venue voir ce qui nous arriverait, ils se précipitèrent violemment dans la réunion et me commandèrent de descendre, mais je n'étais pas libre d'obéir à leur ordre. Alors ils tirèrent leurs épées, et l'un d'eux me frappa d'un sabre, mais avec le plat, et les autres frappèrent les amis avec des épées et des bâtons, puis me tirèrent à base et m'emmenèrent dehors jusqu'au shérif, dans la cour. Je leur parlai alors de l'inhumanité de leur conduite, de venir ainsi armés parmi un peuple innocent et paisible qui ne leur résisterait pas, que c'était bien au-dessous de l'esprit d'un homme, et ils en eurent honte, et ordonnèrent de rengainer les épées. Ensuite, ils firent sortir le reste de la réunion plus tranquillement, et 2 ou 3 officiers me prirent et me conduisirent seul à Guildhall, puis ils amenèrent les amis, 2, 3, 4 et 6 à la fois, jusqu'à en avoir amené près de 200. Je les rassemblai autour du siège du jugement, et nous y eûmes une réunion très précieuse, car la puissance et la présence du Seigneur furent abondamment manifestées parmi nous. Au bout d'un moment, le maire et les échevins vinrent, mais ils étaient tellement occupés avec des baptistes et des indépendants qu'ils ne s'occupèrent pas de nous. Ils nous gardèrent là sous forte garde jusqu'à minuit, ne permettant pas aux amis de venir vers nous, mais d'une manière ou d'une autre, ils avaient renvoyé près de la moitié de notre compagnie. Puis, vers minuit, ils nous amenèrent à Newgate pour que le peuple ne voie pas, et le lendemain, ils firent venir 20 à Guildhall, en incarcérèrent environ 16 et laissèrent partir les autres. Le 4e jour, ils m'envoyèrent chercher, moi et 11 autres, disant que nous devions comparaître devant le maire et l'évêque à Guildhall, mais lorsque nous y arrivâmes, aucun évêque ne parut. Je demandai au maire où était l'évêque, lui disant qu'il eût été plus honorable de l'envoyer au Bullenmouth avec ses armes spirituelles, et ainsi de nous vaincre s'il le pouvait. Mais il dit peu à ce sujet, et se montra très modéré à mon égard. Je m'entretins bien avec lui, et il me dit qu'il préférerait nous mettre en liberté plutôt que nous incarcérer, mais qu'il ne pouvait l'empêcher, car je devais soit payer une amende de 5 shillings, soit aller en prison 14 jours. Je lui dis que s'il prouvait que j'étais en réunion d'une manière autre que celle autorisée par la liturgie de l'Église d'Angleterre, je lui paierais alors les 5 S. Mais il n'ajouta rien, quitta le siège, et je fus emmené. Ensuite, ils firent entrer les autres un par un, et les incarcérèrent d'eux-mêmes. Ils le firent dans une pièce intérieure, où nul, hormis eux-mêmes, ne pouvait entendre, bien que plusieurs centaines de personnes fussent dehors, murmurant et cherchant à entrer, puis ils nous renvoyèrent à Newgate. Le 6e jour, ils envoyèrent le reste, environ 60 en tout, à El Old Bailey, et les firent incarcérer pour environ 9 jours chacun. Le 3e jour dernier, comme je parlais dans notre réunion du côté de la chapelle à Newgate, Un des hommes du geôlier vint me chercher et me mit dans le trou où l'on mettait d'ordinaire les condamnés, mais ils ne m'y gardèrent pas une heure. Le cinquième jour, tandis que je parlais, il revint, et parce que les amis se tenaient autour de moi, de sorte qu'ils ne pouvaient m'atteindre, il se mit à frapper hommes et femmes avec un grand bâton, et les criminels se mirent à frapper les amis à coups de poing, et certaines femmes voleuses, avec un couteau ou des couteaux, menacèrent de poignarder les amis et tentèrent de le faire, mais en furent empêchées. Enfin ils m'emmenèrent et me mirent auprès de cher Alexandre Époque, dans la salle du justice, et j'écrivis au maire et envoyai un ami avec ma lettre. Il sembla se mettre en colère contre eux pour nous avoir ainsi maltraités, et dit que nous ne devrions pas être ainsi maltraités, mais qu'il prendrait rapidement des mesures pour que cela change. Depuis lors, lui, l'homme du geôlier, me laisse parfois aller vers eux, mais pas rester toujours avec eux. J'ai avec eux des réunions très paisibles et précieuses quand j'y vais, et, en vérité, la puissance glorieuse et puissante de Dieu se fait sentir, à l'étonnement de beaucoup. Mais le dernier premier jour, le maire et le méchant Brown vinrent eux-mêmes à la réunion du boule, et les amis furent amenés devant eux dans le porche, où ils les condamnèrent à des amendes et les incarcérèrent au-delà de 200, et les envoyèrent à Newgate. Mais ceux qui les conduisaient en laissèrent partir beaucoup en chemin, et certains des hommes à la hallebarde porteurs d'une lance à lame de hache s'enfuyaient d'eux et les laissaient dans la rue. De sorte qu'à mon avis, environ 120 seulement furent effectivement amenés. Mais Brown se montra très cruel, il pinçait durement les femmes et tirait les hommes par les cheveux, il les saisissait par le chapeau, leur abaissait la tête près du sol, puis jetait leur chapeau dans la boue. James Park fut pris là, et du pile, environ 30 furent conduits à Newgate et environ 12 de Mill End, mais nous ne savons pas encore pour combien de temps ils sont détenus. Nous estimons qu'il y a, en tout, dans ce Newgate, environ 300 d'entre nous. Mais le Seigneur est véritablement avec nous et soutient nos cœurs bien au-dessus de toutes les souffrances. Béni soit son nom à jamais. John Higgins et un autre sont là pour la troisième fois, et à Hertford, 8 ont été condamnés au bannissement, 4 à la Barbade et 4 à la Jamaïque, et quelques autres en sont à la troisième fois. Cher George, prie pour nous, afin que nous demeurions fidèles dans la puissance et l'autorité de Dieu, et que sa présence et son amour continuent toujours avec nous. Cher A. P. Alexandre Époque te salue affectueusement et mon amour salue t'aime. F. Et le reste de ceux qui sont avec toi, je serais heureux d'avoir de tes nouvelles, moi qui suis à toi dans le Seigneur. Josiah Coal d'après l'original. N.X. Lix Gilbert Laté à George Fox et Margaret Fell Londres, 1er du 7e mois, 9e mois 1664. Cher George Fox et M. F. Que j'aime sans fin et que je salue chèrement, je vous fais savoir par ces lignes que j'ai reçu votre lettre. Et George Whitehead, qui a été relâché, m'en a résumé les points principaux de fort bonne manière, et je l'ai porté à Lord Hubney comme vous me l'aviez ordonné. Il avait été malade ces derniers temps et n'était pas très bien quand je suis venu le voir. Je lui ai exposé mon affaire et de qui elle venait. Ainsi, lorsqu'il m'eut entendu, voici quelle fut sa réponse, que tout était clos et que rien ne pouvait être fait, et que ni le roi ni le chancelier ne feraient quoi que ce soit pour nous. Aucun homme ne pouvait non plus être entendu pour parler en notre faveur. Alors je lui ai parlé de l'injustice de votre emprisonnement, de la mauvaise composition du jury, et du fait que cela était contraire à la loi, et que vous ne demandiez rien d'autre qu'une prison libre, et que les voleurs et les meurtriers avaient plus de liberté que vous, et que vous étiez enfermés dans une mauvaise chambre, et que les amis n'étaient pas autorisés à venir vous parler, et je lui dis que j'en avais un mémoire écrit, et le priai de le remettre. Il me dit qu'il en était désolé de tout son cœur, mais qu'il ne me dirait pas de mensonge, il était certain que rien ne pouvait être fait, et il croyait qu'il le faisait exprès pour nous vexer, et je le quittai ainsi. Car il dit qu'il ne pouvait rien faire, puisque tout le clergé était contre nous, et qu'on ne pouvait absolument rien faire, et qu'il ne voulait pas du tout se mêler du mémoire. Ainsi, je voulus bien le laisser. George Whitehead disait qu'il serait peut-être bon, si nous connaissions le juge qui vous a promis plus de liberté qu'auparavant, que quelqu'un lui en parle pour voir s'il ferait quelque chose. Ainsi, avec mon cher amour pour vous et cher M. F. John Stubbs et le reste des amis en prison. Je demeure votre ami assuré autant que je le puis, Gilbert Laté d'après l'original, adressé à Margaret Fell, Lancaster et George Whitehead à George Fox Londres, 17 du 8e mois, 10e mois 1664. Cher George Fox, mon amour cher et droit dans le Seigneur te salue, ainsi que le reste de nos chers amis qui sont avec toi dans cette prison château de Lancaster astérisque et particulièrement cher M. F. Les sessions ont eu lieu ici à Elhold Bailey et à Rix's Roll la semaine dernière, et elles ne sont pas encore terminées à Elhold Bailey. Les juges des Keeling étaient au banc, ils ont beaucoup manifesté leur inimitié contre les amis, tant en ville qu'à la campagne, là où ils ont été en tournée. Bien qu'ils se soient montrés acharnés contre les amis, Le jury, dont certains étaient modérés, a soulevé des objections contre certains témoins, dont certains étaient des geôliers de Newgate ou des gens à la solde des geôliers. Et aussi, après qu'on les eut envoyés délibérer pour rendre leur décision concernant les amis, ils ne s'accordèrent pas sur un verdict, mais plusieurs d'entre eux refusèrent d'y consentir. Suit ensuite un récit similaire de ce qui s'est passé à celui contenu dans la lettre suivante d'Eli Rox. Le dernier premier jour, il m'a beaucoup pressé d'aller à la réunion du Bull and Mouse, où de nombreux porteurs de hallebardes vinrent pour nous arrêter, mais ils furent contraints de m'entendre exercer mon ministère pendant près d'une heure. Ensuite, le maire et Brown vinrent. Il me fut permis de parler un peu après l'arrivée du maire, mais je fus alors tiré à bas. Ils m'envoyèrent, moi et environ 40 autres, à Newgate et 9 ou 10 à Bridewell. Quant à ce qui a été fait au sujet de vos souffrances, je suppose que Gilbert Lattay vous en rendra compte, car j'ai fait un abrégé de deux de vos lettres, l'une fut montrée à Albany, une autre à Marsh, et une autre à Anglesca, et ils semblent tous désapprouver la cruauté qui a été exercée contre vous. Ton cher frère, George Whitehead, d'après l'original astérisque, comme décrit par un auteur indépendant d'après les mémoires de Margaret Fox, la chambre de Fox se trouvait dans le cachot, et la fenêtre de ce qui fut sa demeure durant de longs mois mornes est visible depuis une grande partie de l'ancienne ville. C'était manifestement, à une époque, une pièce d'une taille considérable, mais au temps de Fox, elle était vieille et en ruine. Il pouvait à peine traverser son logement, tant le plancher était délabré. La fumée qui venait des autres prisons était si dense que, parfois, une bougie allumée était à peine visible, et il courait un danger imminent d'étouffer, et ce n'est qu'avec peine que l'on persuada le geôlier de déverrouiller l'une des portes supérieures afin de laisser sortir la fumée. Par temps humide, y compris en hiver, la pluie tombait sur son lit. Les incommodités de sa prison affectèrent Fox à un tel point, durant un hiver froid et prolongé, que son corps enfla et que ses membres s'engourdirent. Lorsqu'on le fit comparaître aux assises de mars 1665, il était si faible qu'il pouvait à peine se tenir debout ou se mouvoir. Comme décrit plus avant par un auteur indépendant dans les mêmes mémoires de Margaret Fox, Margaret fut emprisonnée dans une salle commune avec d'autres Quakers, appelée la salle des Quakers. Et les amis de Fox dans ce voisinage ne furent pas non plus épargnés. Beaucoup de ses partisans, parmi lesquels Margaret Fell, chez qui il avait été appréhendé, furent aussi enfermés dans le château de Lancaster, où il existe un appartement, appelé encore la salle des Quakers, parce qu'il fut le théâtre des souffrances de nombre de ces chrétiens opprimés et non résistants. Henley Eli Rox à Margaret Fell, Londres, 18 du 8e mois 1664. Cher M. F., mon cher amour est pour toi dans la vérité immuable. Je crois qu'il y a 2 semaines que je t'ai écrit pour la dernière fois, c'est pourquoi je ne pouvais que t'écrire ceci, et te rendre compte de ce qui s'est passé à la maison des sessions la semaine dernière. Hier, à Rix's Roll, 4 femmes mariées furent condamnées à 11 mois d'emprisonnement et une amende de 40 livres. Environ 12 ou 13 hommes et femmes furent condamnés à être déportés vers l'une quelconque des plantations étrangères, et à El Old Bailey, environ 46 amis furent appelés, et 16 d'entre eux ne voulurent pas répondre non coupables selon leur forme, et furent donc hier condamnés par le Record, celle qui avait des maris à Bridewell pour 12 mois et une amende de 20 livres, et les hommes furent condamnés à la Barbade. Environ 16, le dernier 7e jour, plaidèrent et furent jugés par un jury, lequel jury fut renvoyé délibérer 2 fois, sans s'accorder sur un verdict. Les juges Hyde et Keeling leur parlèrent longuement, mais à la fin, ils ne purent s'accorder, si d'entre eux se prononçant fortement en faveur des amis. Certains plaidèrent notablement en faveur des amis, et dirent qu'ils ne niaient pas qu'ils fussent coupables de s'être réunis au Bull and Mouse, mais qu'ils n'étaient pas coupables du fait qui leur était reproché, à savoir que c'était une réunion séditieuse, et l'un des jurés dit que les témoins n'étaient pas des personnes compétentes étant des ivrognes notoires pour jurer contre des hommes honnêtes. Alors les juges furent très irrités contre eux, et les obligèrent chacun à une caution de 100 livres pour en répondre devant la barre du King's Bench. Les 4 geôliers de Newgate furent tous les témoins qui vinrent déposer contre les amis, ainsi qu'un des hommes du maréchal. Les amis de Hertford, d'abord condamnés au bannissement, sont maintenant revenus de Gravesend, et tous leurs biens ont été débarqués, et j'entends dire que les propriétaires ont l'intention d'envoyer leur navire par une autre voie. Depuis, ils ont condamné 21 à la prison à Hertford. Ainsi, chère Margaret, mon cher amour est pour toi, et pour George Fox et J. Stubbs et L. Fell, George W. et environ 60 autres furent arrêtés au bout le dernier premier jour, mais partout ailleurs les réunions furent paisibles. Ton ami affectionné, Eli Rox, d'après l'original concernant les amis revenant de Gravesend, comme indiqué ci-dessus, les détails suivants les concernant, tirés des souffrances de Bess, sont trop remarquables pour être omis ici. En vertu de la sentence de bannissement prononcée contre ses amis au nombre de 7, le geôlier, agissant, semble-t-il, sur l'ordre du shérif du Hertfordshire, entreprit de conclure un marché avec le capitaine d'un navire en partance pour les Indes occidentales, afin d'y transporter les amis en conséquence. Diverses difficultés survinrent avant qu'ils ne fussent livrés à bord du navire, et lorsque enfin on les amena au bâtiment, le capitaine leur donna, de sa propre main, l'autorisation de descendre à terre et de revenir quand il les réclamerait. Le 1er octobre, huitième mois, le mois auquel est datée la lettre ci-dessus, le capitaine les envoya chercher pour qu'ils montent à bord, ce qu'ils firent, et le navire descendit la rivière jusqu'à Redhouse près de Deptford, lorsqu'un brusque changement de vent le repoussa vers Limouze, où les prisonniers furent de nouveau débarqués. Le 6, le navire leva de nouveau l'ancre, avec vent et marée favorables. Pourtant les marins ne purent, malgré tous leurs efforts, faire avancer ce navire, et ils durent jeter l'ancre encore une fois à une portée de pierre environ de l'endroit où ils étaient auparavant, de sorte que certains matelots furent stupéfaits et dirent « Nous ne sortirons jamais d'Angleterre tant que ces hommes seront à bord ». Ils les débarquèrent donc pour la troisième fois. Le 8, ils repartirent et descendirent jusqu'à Greenwich, lorsqu'une tempête soudaine les obligea à jeter de nouveau l'ancre pour mettre le navire en sûreté, et les prisonniers furent envoyés à terre pour la quatrième fois. Le 10, on leur ordonna de monter à bord pour la cinquième fois, et ils repartirent. Le navire fut, au prix de bien des difficultés, empêché de s'échouer. Ils cependant débarquèrent encore les prisonniers à Blackwall, et lui descendit avec la même marée jusqu'à Gravesend. Les prisonniers d'alors suivirent, et sur l'ordre du capitaine certains y demeurèrent, et d'autres revinrent à Londres jusqu'au 28, date à laquelle on leur ordonna d'embarquer une sixième fois, et le navire appareilla cette nuit-là vers Lee Road, où ils jetèrent l'ancre. Mais avant le matin le vent tourna violemment contre eux, de sorte qu'ils restèrent là 2 jours et 3 nuits. Le 31, ils firent voile vers le Northumberland et jetèrent encore l'ancre jusqu'au lendemain. La nuit, le capitaine les fit débarquer et leur indiqua Deal, où il les retrouva tous ensemble, et devant plusieurs témoins déclara que, bien qu'ils eussent suivi le navire si longtemps, il était résolu à ne pas les transporter, et leur donna un certificat écrit comme suit. Attendu que sept hommes appelés Quakers ont été amenés à bord de mon navire, nommé l'âne de Londres, par William Edmond, geôlier de Hertford, à savoir Nick. Lucas Henry Fist, Henry Marshall, Francis Prior, John Blendall, Jeremiah Herne et Samuel Traherne, lesquels ont continué à attendre mon navire de Londres à Deal, depuis le 14 jour de septembre dernier jusqu'à ce jour, et voyant que la Providence m'a grandement contrarié jusqu'à présent, par quoi je m'aperçois que la main du Seigneur est contre moi, je n'ose poursuivre mon voyage en les transportant, étant des personnes innocentes, et aucun crime n'ayant été signifié contre eux qui mérite le bannissement. De plus, mes hommes refusent de faire le voyage si je les emmène, ce qui me causera grand préjudice, les hommes étant très rares en raison de la longue presse. Pour ces raisons donc, et beaucoup d'autres, je ne les transporterai pas. Les présentes servent donc à certifier toute personne ou toute personne qui les mettrait en question, qu'ils ne se sont pas évadés, mais que je les ai remis à terre afin qu'ils aillent où bon leur semblera. Le tout est certifié de ma main, ce 10 novembre 1664. Témoigné par 4 personnes, Thomas May ayant ainsi été remis en liberté, ils retournèrent à Londres, puis dans leur foyer, et ils envoyèrent une lettre au roi et au conseil, exposant les circonstances et l'accompagnant d'une copie du certificat du capitaine. Cette lettre, lue au conseil, donna lieu à un ordre lequel, après avoir exposé le fait qu'il avait été embarqué sur le dit navire susmentionné, conformément à leur sentence de transportation, et qu'ils avaient été par le capitaine débarqués aux Downs, les laissant libres d'aller où bon leur semblait, et se paraissant être affaire de manœuvre et de dessein entre le dit capitaine et les personnes ci-dessus mentionnées, ordonna que le haut shérif les fasse de nouveau arrêter et garder, jusqu'à ce que l'on puisse trouver le moyen de les Par cet ordre, ils furent de nouveau incarcérés et y restèrent 7 ans, jusqu'à leur élargissement par proclamation du roi. Souffrance de baisse vol, IP 246-248, lettre historique suite.